Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On est ready.
Ouais.
Tu peux finir de lire ton article pendant que je fais ma petite intro, si tu veux, il n'y a pas de probe.
On fait ça.
One, two, three, vive à l'Algérie. Bonjour.
Internet. Bonjour. Oh my god. Hello.
Hi.
Hello.
Du coup, The Crown. Alors, petit point, spoiler, de quoi on va parler, etc. On va parler de The Crown saison 5. On a déjà fait un débrief de la première partie des épisodes 1 à 5. Et là, on va parler de toute la saison, donc notamment des épisodes 6 à 10, mais aussi de tout ce qui a précédé dans la saison 5 et dans toutes les saisons de The Crown. On va pas spécialement spoiler la suite, et en même temps, c'est la vraie vie. Donc, il y a des choses, on sait que ça
spoiler
c'est arrivé
la
dans
vie,
la vraie
en
vie.
Fait.
Donc, si jamais vous êtes vraiment au courant de rien du tout en termes de ce qui s'est passé d'important dans la famille royale, Charles et Diana, la vie de la reine Elisabeth, si peut-être vous êtes pas au courant, spoiler alert, qu'elle est décédée récemment, tout ça, peut-être que vous allez avoir
ouais,
des révélations
avoir
pendant
des
ce live. Mais à part ça, évidemment, on n'a pas plus d'infos que vous sur la suite. Et voilà, on va pas vous spoiler plus que ça. Mm. Et ce sera dispo en replay, en flux podcast.
Du coup,
c'est parti pour le débrief de The Crown.
Let's go.
5, partie 2, épisode 6 à 10. Commençons avec l'épisode 6 qui pour moi est le meilleur de la saison, c'est celui que j'ai préféré parce que j'ai adoré la mini storyline. Alors c'est pas tout l'épisode clairement mais ça m'a suffi. En fait, c'est mon passage préféré de la saison.
OK.
Cette petite storyline avec les Romanov en 1917, donc les tsars de Russie qui sont menacés par la révolution menée par Lénine notamment et qui se retrouvent à demander à George V, le roi d'Angleterre de l'époque, enfin le roi du Royaume-Uni, de leur envoyer un bateau et de l'aide pour les sauver, qui parce que c'est son cousin au tsar, et on n'est pas sûr de ce qui est répondu, mais en tout cas on voit qu'ils ne sont pas sauvés.
Et apparemment ils étaient vraiment proches.
Oui, c'est vraiment, il y a une véracité pour le coup, il y a une véracité historique de base. Alors c'est plus toi que moi qui ai fait le point Wikipédia, mais je connais un peu pour le coup, je connais un peu l'histoire des tsars russes. J'ai une période littérature russe, histoire de Russie. Oui, quand j'étais au lycée, j'aimais bien.
Ouais. Moi, je me suis juste intéressée à Anastasia. Est-ce vraiment vrai que dans le dessin animé, c'est la seule survivante, machin,
Oui. Elle est pas
Il y a peu de doutes
hein,
dans l'épisode de The Crown. Là, il y a pas de peut-être que
girl
Anastasia,
is dead.
Naninana.
Ce qui m'a l'air d'être plutôt le consensus historique, hein, c'est que The Girl is probablement dead à ce moment-là, avec le reste de sa famille, malheureusement. Et ça pose du coup ce contraste hyper intéressant sur à quoi sert la monarchie ? Et rappelons-nous qu'au bout d'un moment, quand le peuple décide qu'elle sert pas, des fois, ça tourne très mal. Moi, j'ai adoré ça, mais parce que voilà, j'ai cette petite passion pour le 19e, 20e siècle russe. Chacun ses trucs. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce retour en arrière, déjà ? Parce que on remonte loin dans le temps.
Ouais, c'est ça. Moi, au début, j'étais là, what the fuck is happening ? Pourquoi est-ce que waouh ! J'ai bugué.
C'est marrant. Wow. Femme m'a fait. Mais attends, mais est-ce que mon canapé est maudit ? Femme m'a fait pareil hier. Ou vraiment en plein milieu d'un épisode de podcast, il était là. Est-ce que je fais un AVC ? Mon cerveau ne fonctionne plus. Et j'étais en mode ça va ? Tu veux du sucre ? Tu veux mettre ta tête entre tes genoux un petit peu ? Qu'est-ce qui se passe ?
Donc ce flashback, vagal, hein, finalement, c'était ça le mot que je cherchais, ce flashback.
Oui.
Et ben en fait, j'étais un peu en mode à quoi va-t-il servir ? Je comprends pas trop. Et bon, au final, dans l'épisode, tu comprends, tu vois. Moi, j'ai bien aimé. J'ai tout de suite capté que c'était... Bon, après, en même temps, la lettre arrive du tsar Nicolas. Il n'y en a pas 12 000 qui étaient en danger.
Oui, mais voilà. Il faut avoir cette petite base de connaissances de...
Il faut avoir vu Anastasia.
Les tsars, Anastasia. Là, c'est le moment où les tsars, c'est chaud, quoi.
Ouais.
Donc, c'est connu, mais il faut l'avoir.
Et du coup, moi, je me souviens que le seul truc qui me marque au début, je vois le... Plus 16 sexe nudité de Netflix.
Ah oui, l'avertissement.
Ah bon, mais pourquoi plus 16 sexe nudité? C'est rare qu'il y ait sexe nudité dans les trucs de The Crown et tout. Et vraiment, 3 minutes plus tard, je suis là, ah bah, c'est pour ça!
Ah, c'est pour ça!
MDR, car ils sont tous décédés et que c'est extrêmement violent cette scène.
Ouais.
Et j'étais là, je comprends pas trop la nécessité de du pourquoi du comment, tu sais, genre. Parce que ils ont rarement fait des trucs violents dans The Crown.
Oui, The Crown, pour moi, c'est une série qu'on dirait familiale, tu vois.
Ouais.
C'est qu'il n'y a pas trop de sexe, il n'y a pas trop de violence, il n'y a pas trop de trucs qui te dépassent. C'est une série grand public, quoi, qui a un peu en plus cette velléité, même si il rappelle que c'est pas un documentaire, de raconter des périodes historiques. Et là, d'un coup, ouais, t'es devant une scène, t'es là, oula, si j'avais, ma cousine de 12 ans qui regarde avec moi, je suis pas sûre que je serais à l'aise avec ça.
The balle dans la tête, quoi. Vraiment, littéralement, c'est genre,
balle dans la tête,
tenez, on va mettre un gros plan sur cette balle dans la tête.
Ouais, des enfants qui se font assassiner par des adultes et tout, enfin, c'est vraiment très dur. Et bah, Filigrane dit, je m'attendais pas à autant de violence dans The Crown, en tout cas de violence explicite. Mm. C'est la séquence de cette série qui m'a le plus rendu triste et choquée.
Ouais, je comprends.
Et effectivement, c'est pas une série qui nous a habitués à ça. Et moi, je sais que après les épisodes, je vais voir un peu sur Reddit ce que les gens racontent. Et clairement, c'était le sujet de discussion, c'était...
Pourquoi ?
Est-ce que c'était nécessaire, cette... Du coup, à ton avis, tu la lis comment ? Tu penses qu'elle... Pourquoi ils ont fait ce choix ?
Bah, en fait, je me demande que... Comme c'est quand même un des thèmes principaux de la saison, ce truc de la monarchie sert à rien, machin, non ? Je me dis, en fait, peut-être c'est un truc de regarder, en fait, vraiment si le peuple en a vraiment marre ce que ça fait en fait à la famille royale, et que c'est pas que des trucs de regarder les richoux, ils sont chiants et ils coûtent de l'argent, tu vois. C'est qu'en fait, vraiment, si le peuple se révolte contre toi, c'est la guillotine en France et c'est les baïonnettes en Russie, quoi.
Ouais, 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 je pense qu'il y a de ça. Il faut, je pense qu'effectivement, ça sert à nous rappeler l'aspect fragile de la monarchie et le fait que en fait, ça tient à littéralement. C'est un contrat social, quoi. Ça tient à... Les gens ont décidé que c'était utile, et si c'est pas utile, ça peut mal finir. Et du coup, ça appuie le contraste entre Charles et la reine, puisque Charles passe quand même beaucoup de temps dans cette saison à se demander en quoi on est utile, qu'est-ce qu'on apporte aux gens, comment leur montrer qu'on est utile, là où la reine est un peu en mode, on est utile parce qu'on est. Genre le fait qu'on existe,
because ce qu'on représente.
Ouais, parce que Dieu nous a choisis, et aussi parce que, voilà, le symbole de la monarchie se suffit quasiment lui-même, et il n'y a pas besoin de chercher plus d'utilité que ça. Et c'est justement le fait qu'on soit que ça qui est rassurant aussi pour les gens, qu'on serve à rien d'autre que d'être un repère. Là où Charles, il est là en mode non, mais il faut qu'on trouve quand même des utilités pratiques dans la vie.
Ouais.
Et bah, l'épisode précédent, c'était sur pas mal sur certes le tampon gate, on n'oublie pas, on vit avec, mais aussi sur son association là, le Prince Charles Trust. Donc il y avait ce côté, il fait des trucs pour se rendre utile.
Mm-mm.
Et parce que aussi des fois quand les rois et reines sont inutiles, ça tourne mal. Je pense qu'il y a aussi un sous-entendu intéressant, un doute intéressant sur est-ce que les ancêtres d'Elisabeth ont juste laissé ces gens mourir, tu vois. Il y a ce côté est-ce qu'ils ont demandé de l'aide et ils n'ont pas pu le renvoyer parce que peut-être dans le contexte première guerre mondiale, etc. En fait, tu peux pas. C'est
surtout
trop
que le début de on réveille le tsar et sa famille, c'est genre il y a de l'aide qui est arrivée, venez vous mettre en sécurité.
Oui,
tu
oui, et c'est
donc du coup il y a un
cousin nous sauve et tout, donc il y a en plus ce doute si jamais t'as pas les détails en tête de ok, est-ce que moi-même j'étais là en vrai, j'ai pas les bails précis de
où est-ce qu'ils sont
morts, où ils étaient, c'est quoi la Hypatia House et tout. Si jamais en fait effectivement ils sortent de la famille Romanov sort de la maison, monte sur un bateau et se fait tuer sur un bateau, j'aurais été là ok, vraiment je sais pas exactement où ils ont été tués, je sais juste qu'ils ont été tués. Donc il y a quand même ce doute. Et on voit la famille du roi George V recevoir la demande officielle, et lui qui dit c'est pas moi qui vais décider, c'est ma femme, la reine Marie, ce qui est déjà aussi intéressant parce que pour le coup c'est pas comme Elisabeth qui est reine et du coup Philippe c'est le roi consort et il n'a pas de rôle, en fait il est pas roi. Là c'est le roi qui dit non, c'est pas moi qui vais décider, c'est ma femme, qui est en soi juste ma femme quoi, c'est pas elle la reine. Et on sait pas ce qu'elle décide, mais on voit qu'ils se font assassiner. Et je pense que ça pose aussi cette question de quand la famille royale se retourne, enfin, sur qui on peut compter, tu vois. Est-ce que ces liens familiaux, ils sont si indispensables? Et c'est un épisode où il y a aussi la thématique de Philippe qui fait des tests ADN.
Ouais.
Pour retrouver, du coup,
ça, c'est vrai.
Toute cette idée de filiation et tout ce dialogue avec Penny de est-ce qu'on est qui on est dans nos gènes et dans notre histoire et dans notre sang et dans notre lignée, ou est-ce qu'on est qui on est juste en tant que personne dans l'instant présent? Est-ce que notre ADN détermine, en plus l'ADN qui est une technologie nouvelle à ce moment-là, quoi, est-ce que ça détermine ce qu'on va faire, etc. Et le fait que son ADN à lui permet d'identifier que c'est bien les restes de la famille Romanov et qu'ils vont pouvoir avoir des funérailles dignes, il y a quand même toute une thématique autour de qu'est-ce qu'on doit à sa famille et comment des fois, et c'est très pour le coup House of the Dragon comme thème, mais comment des fois le seul truc qui peut détruire une famille, c'est la famille elle-même, tu vois. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a autant de...
Ouais, puis c'est intéressant ce truc visuelle, de... Quoi. La discussion qui se crée après entre Elisabeth et le prince Philippe, qui sont genre, bah en gros, tes ancêtres ont pas sauvé les miens, quoi.
Oui. Qui est un sujet quand même.
Ouais.
C'est quand même un gros sujet. Et on sent qu'il y a quelque chose d'un peu larvé autour de ça. Et bah, c'est aussi un épisode où il y a une vraie dichotomie entre Elisabeth et Philippe.
Ouais.
Parlons-en. Philippe, dans cet épisode, et donc dans une... en gros, il essaye de justifier à Elisabeth sa relation avec Penny, à qui il a appris la calèche. Et même encourager Elisabeth à la légitimer en disant bah, si tu te montres avec elle, ça montrera bien qu'il n'y a pas de malaise, c'est pas mon amante, oui. Et du coup, ce serait bien que tu te montres avec elle. Et en même temps, il y a ce sous-entendu très clair de, il y a les règles de Dieu, il y a les règles du mariage, et il y a ce qu'on en fait. Quoi.
Oui,
a... et
après, en fait, pour moi, ce truc-là, enfin, cette relation-là, elle est compliquée, parce qu'en fait, il y a aussi un truc où je suis en mode, en vrai, t'as le droit d'avoir des amis femmes, tu vois.
Oui. Oui, oui,
et de pas être
femmes.
Dans un truc de, c'est pas bien parce sûr. Qu'elle a, enfin, en vrai, tout à l'heure, en off, on faisait des blagues en mode, oui, bien sûr, t'adores sa compagnie littéraire alors qu'elle a 30 ans de moins que toi et que
oui, c'est aussi
ça t'arrange
une très belle femme qui a 30 ans de moins que lui,
mais bah, je suis
en
mode,
déjà
en
une
vrai,
femme qui est mariée, enfin, qui,
oui,
pas,
voilà.
qui fait sa vie, qui est en deuil de ouf et tout.
Et c'est ce que lui, juste... il explique à Elisabeth, il lui dit, en fait, vraiment, il y a enfin, c'est platonique, quoi. C'est une relation intellectuelle platonique. Et en fait, le truc, c'est que, bah, très littéralement, ça ne brise en aucun cas le mariage, tu vois. Genre, si tu suis un peu la ligne édito de Elisabeth, en vrai,
on est
y a
dans
pas
les
vraiment
clous.
De foi, de, il y a pas vraiment de quoi être dans le seum ultime comme elle l'est, tu vois.
Oui.
Juste le seul truc, c'est que à ce moment-là, c'est un énième truc de t'es pas assez. T'es pas assez pour le peuple parce que t'es trop pour le peuple pour le coup. Parce que
trop,
tu coûtes cher
t'es
et machin.
Trop pas assez, quoi.
T'es trop vieille. Et là, t'es pas assez intelligente.
Et t'es pas assez moderne.
Et
t'es
pas assez
dynamique.
Intéressée par les calèches.
Il est quand même dur cet échange avec Philippe parce que du coup, Philippe lui reproche vraiment leur manque de connexion intellectuelle, mais en étant clairement lui dans une position supériorité,
ouais,
quoi.
Genre...
Il lui reproche de pas être à son niveau à lui. C'est pas juste on a des intérêts différents, c'est... En fait, je suis plus curieux, je suis plus intelligent, je suis plus intellectuel. Et toi, tu es plus calme et stable. Ce qui est un peu genre... Okay, curieux et stable, c'est pas incompatible, en fait. Enfin, tu peux être les deux, quoi. Mais c'est une façon polie de lui dire, toi, t'es un peu chiant, t'es pas très maligne.
Oui, et puis c'est aussi une façon assez facile de dire, genre, ouais, toi... Enfin... Je sais plus si elle lui dit vraiment ou si j'ai lu ça dans ma tête ou ailleurs.
Loulou a lu beaucoup d'articles.
Mais en gros, aussi un moyen de lui dire, genre moi j'ai été éduquée et tout machin, sans souvenir qu'en fait Elisabeth elle a pas eu le temps d'être éduquée, puisque littéralement elle est devenue reine un peu du jour au lendemain sans vraiment avoir été préparée, et qu'elle a dû s'éduquer à, littéralement, alors je sais pas quel est vraiment le rôle de la monarque dans la royauté anglaise, mais quand même à gérer une nation, tu vois, et à être un personnage public,
bah,
H24.
À minima, un rôle diplomatique
oui,
qui nécessite d'avoir une bonne idée du contexte géopolitique de chaque pays. Et en plus, rappelons qu'elle a vécu aussi la décolonisation de toute une partie du Commonwealth, du coup. Donc, c'est des relations géopolitiques qui changent et qui sont extrêmement volatiles et extrêmement sensibles. Donc, il faut pas faire de faux pas quand tu vas dans une de tes colonies qui est au bord de l'indépendance, par exemple, quoi.
Et du coup, je pense qu'il y a aussi un truc comme ça où t'es un peu en mode, ouais, ben Philippe, toi, t'as du temps en fait, frère, parce que littéralement, t'es le roi consort.
Il a que ça à foutre, hein, de faire des calèches là, de vraiment.
Et de regarder les astronautes aller sur la lune en disant, ouais, moi aussi, j'aimerais aller
et
sur la lune.
Et de pas essayer de gérer, par exemple, son fils qui est en train de d'être dans un mariage avorté qui fait nimpe, qui a ses sextos qui fuitent et tout. Enfin, tu vois, il pourrait s'en occuper, quoi.
Oui,
il pourrait
s'en occupe en lui disant.
Peut-être qu'il l'a fait dans la vie, mais dans la série en tout cas.
Oui. Enfin, oui. Ouais. À part aller voir Diana et dire
oui,
à son fils.
Oui, il met un coup de presse à Diana. Et il dit à son fils, tu fous la honte à la famille. Bah, ouais. Super, top. C'est bien comme ça qu'on règle les problèmes. Autant aller faire 8 heures de calèche avec Penny, on a bien travaillé.
Ouais, Filigrane dit l'un des plus gros thèmes de la saison 1, et c'était justement que la reine n'avait pas reçu une éducation suffisante en grandissant.
Oui.
Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu ça qui se ressent à la fin, à la toute fin de l'épisode. Il y a une super scène, moi, j'ai trouvé, où il y a, du coup, Elisabeth en train de jouer avec ses corgis.
Trop bonne scène.
Et lui qui rentre et qui regarde juste Elisabeth jouer avec ses corgis est en mode, ouais, en fait, juste, vous avez pas la même intelligence, tu vois. Genre, elle a une intelligence émotionnelle. Bon, alors après, encore une fois, on parle du personnage dans The Crown. Oui. Aucune idée de comment est la vraie reine Elisabeth.
Bien sûr.
Était la vraie reine Elisabeth. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi ce truc de, tu la regardes de haut pour plein de trucs, alors qu'en vrai, ce perso a l'air plutôt mimes et
oui, et pour moi
elle est froide dans plein d'aspects, mais pour son
moi
coup,
j'ai lu cette
tout,
scène comme en fait d'habitude elle le fait plus là, genre ouais. Ils passent plus ce moment ensemble, c'est lui qui fait sa vie de son côté, c'est un moment où en plus on voit qu'il se met à son bureau avec des livres et tout, donc il fait son truc intellectuel, et d'habitude elle est pas là quand il le fait parce que bah c'est pas son truc à elle, et là en fait elle vient et elle occupe l'espace pendant qu'il le fait pour lui dire en fait on peut aussi partager ce moment là juste pas de la façon dont tu l'imagines ou de la façon dont tu le fais avec Penny qui est ben en discutant de ce que t'es en train de lire et tout, mais ce moment-là on le vit à deux et elle lui apporte de la joie, enfin quand il la regarde faire tu
oui,
vois
oui,
il, juste il tourne la tête vers elle, il la voit jouer avec
moi,
ses liens, il est là
quelqu'un
en mode,
qui joue avec des corgis
Imelda voilà, Staunton qui juste, et c'est long comme scène et elle est vraiment en mode il va où lui et toi
alors,
tu cherches quoi, et j'étais vraiment en mode mais je pense que l'actrice elle était juste en train d'être ultra deb avec les corgis, tu vois, c'est pas de l'acting, c'est juste genre ils sont trop bêtes, c'est trop super.
Oh, ils sont trop
bien. Et en fait, ça apporte vraiment de la joie. Et c'est rare qu'on voit Elisabeth dans The Crown être aussi détendue et joyeuse.
Ouais.
Joyeuse, tu vois, genre.
Franchement, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main.
Ouais. Et je trouve que ça rappelle aussi qu'en fait, elle est dans un niveau d'intimité avec Philippe qu'elle a avec personne d'autre. Je pense même pas ses enfants. Et qu'on voit très peu, parce qu'on les voit jamais, évidemment, avoir déjà une vie sexuelle, intime et tout. C'est pas le thème de ces dernières saisons.
Pas du tout.
On voit qu'ils font chambre à part. Mais bon, après, ça, c'est why not, tu vois. Et puis, c'est aussi, je pense, la tradition.
Oui.
Vivre dans un château. Mais on les voit peu être tendres, en fait, l'un envers l'autre, tu vois.
Ouais.
On les voit limite débattre, débriefer, être en mode efficace pour le système, justement.
Ouais.
On les voit être co-administrateurs du système, comme dit Philippe, qui est la royauté, mais on les voit peu être en couple. Et pour moi, c'est aussi un truc de bah, la vie de couple long terme, et surtout la vie de couple long terme, je pense, de gens qui partent du principe qu'ils ne peuvent pas divorcer. Ce qui est du coup, bah, on est coincés ensemble, donc autant en faire un truc,
True
quoi.
That.
Bah, c'est aussi, des fois, prendre le temps de se rappeler que, on n'est pas juste partenaire dans ce grand projet.
Oui.
On est aussi juste deux personnes qui passent du bon temps ensemble et on s'amène de la tendresse, de la douceur. Et je pense que nous, on la voit rarement dans cette intimité-là. Et en fait, il y a que lui qui la voit comme ça. Et ça fait peut-être lui-même un moment qu'il ne l'avait pas vue, tu vois, aussi détendu et,
ouais.
Et un peu débile, tu vois. Enfin, comme tout le monde serait avec trois corgis un peu grassouillets, quoi, vraiment.
Oh,
des
toutous.
Oui, les toutous, les chiens. Ça apporte une certaine émotion au personnage d'Ishino. Ouais, c'est un peu ça. Vu les caractères de merde des corgis, elle sait sacrément bien les éduquer, ces rasmodes canins. N'oubliez pas sa passion des canassons, les bestioles les plus émotives de la création. Il faut un sacré feeling émotionnel pour avoir ce genre de passion toute sa vie. Alors, c'est vrai.
Alors, on dit ça, et en même temps, elle sait pas gérer ses enfants, donc faut voir, quoi.
Ouais, elle sait assez peu gérer ses enfants, et en même temps, comment tu gères tes enfants, et surtout le premier, quand... c'est l'épée de Damoclès de ta propre mortalité en permanence, tu vois, genre encore plus que d'habitude, c'est vraiment ce gamin ne s'accomplira dans sa destinée que le jour où je serai dead, tu vois, c'est genre, et qui pourra me remplacer, genre. J'aimerais penser qu'elle a eu une bonne thérapie postpartum après avoir accouché de Charles, mais je pense que non. Donc, ouais, très peu de... Ah! Tiens, anecdote. Un truc que je connaissais pas du tout qui s'appelle, je crois, le Twilight Sleep. C'est un truc qui est abordé, que j'ai découvert du coup avec The Crown et qui me... Je trouve ça m'amboule de jamais avoir su que ça existait alors qu'on a quand même pas mal bossé sur le féminisme, l'histoire récente des femmes, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle et tout, de nos, jusqu'à nos jours chez Mad, et j'avais jamais entendu parler de ça. En gros, il y a des scènes où Elisabeth, quand Elisabeth accouche au début, pour au moins la première fois, elle dit qu'en gros, quand ça commence, il lui donne des médicaments qui font qu'elle oublie. Genre, elle dort pas, mais en fait, pendant, elle dort pas, mais elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Et c'est un vrai truc, apparemment, qui était pratiqué par les médecins, qui étaient quand même pas mal des hommes, hein, on va pas se mentir. Et effectivement, c'était un cocktail de médocs qui faisait que, certes, les femmes qui accouchaient se souvenaient pas, mais en fait, pendant, elles étaient consciente de ouf de... C'est pas de la morphine, c'est pas de l'antidouleur, c'est juste que ça... Tu vas pas t'en souvenir. Mais du coup, tu vis le trauma d'accoucher sans péridurale, sans antidouleur et tout. Mais après, tu t'en souviens pas. Et en plus, t'es dans le coltard. Donc tous les premiers moments avec ton bébé, ce qu'on fait maintenant, le pot à pot et le premier lien, bah tu le faisais pas. Et du coup, t'avais ce truc... En fait, t'avais été traumatisé dans ton cerveau et dans ton corps par un truc dont tu te souvenais pas mais qui était lié à ce bébé, et du coup ça facilite pas du tout le lien d'attachement avec
j'ai l'impression que c'est Severance.
Ouais, c'est un peu ça. Donc Severance, c'est une série qui est sur Apple TV+, qui est vachement cool. Super. Où l'idée, c'est un monde où on a développé un truc qui permet, si tu le choisis, de te détacher de la partie, en gros, de turn off ton cerveau, de turn off ta capacité à créer des souvenirs à partir du moment où tu taffes. Donc en gros, toute la partie de ta vie où t'es au travail, tu la vis, mais tu t'en souviens pas. Et du coup, dès que tu sors du travail, ça te reboot, et t'es là, c'est genre, t'arrives au boulot, tu clignes des yeux, tu sors du boulot. Mmh. Et il s'est passé des trucs entre temps, tu t'en fous, tu sais que t'as fait ton travail, tu vas être payé à la fin, et du coup, l'idée sur le papier, c'est, bah, du coup, tu le sens même pas passer, ton travail, c'est un truc, super. Mais en fait.
Sauf que t'as une.
Les gens, ils deviennent fous de
t'as
cette
personnalité au travail aussi.
Oui, t'es quelqu'un au travail, et tu vis des choses. Et tu t'en souviens pas, mais ouais. Tu les amènes avec toi quand même, même si tu t'en souviens pas. Et du coup, j'avais découvert, grâce à The Crown, cette idée de Twilight Sleep, okay. Et comme on parlait de, elle est pas hyper maternelle avec ses enfants, oui. Je me dis qu'il y a aussi ça, c'est que, après, je veux pas extrapoler sur la vraie vie de la vraie Elisabeth, mais en tout cas, on nous a montré dans la série qu'elle accouchait dans ces okay. conditions-là et tout. Et il y a peut-être aussi ce truc de comment, enfin, l'attachement aux enfants était pas réfléchi de la même façon et dans la même intimité, je pense, à l'époque, ouais. Et encore plus dans des classes aussi hautes de la société.
Bah oui, enfin, et puis quoi. Ça me rappelle, tu vois, ce que disait Diana dans un des épisodes du début de série, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, t'es avec des nounous et t'es tout le temps entouré d'autres gens que tes parents, en fait, tu vois.
Oui, oui.
Et du coup, je pense que notamment dans la noblesse, peu importe laquelle, t'es clairement pas avec tes parents tout le temps, quoi.
Je pense pas qu'ils ont fait beaucoup de petits déjeuners.
Voilà.
On fait des crêpes et on regarde les dessins animés avec les pieds sur la table au Buckingham Palace. Je pense pas.
C'est dommage.
Bonsoir Gapard Solide, bonsoir Mimi, bonsoir Louise,
salut.
Bonsoir le chat. Je vais devoir visionner To The Crown pour suivre les nouveaux débriefs.
N'hésite
je
pas.
Je m'y mets dès demain. Écoute, de rien, bienvenue. Tu as 5 saisons. Enjoy. C'est vraiment très cool, The Crown. Et du coup, tu pourras venir nous écouter débriefer la saison 5 quand tu seras à jour. C'est compliqué son histoire de dichotomie entre je suis ta mère et je suis ta reine. Oui, c'est vrai, mais ça, ça fait partie de la thématique de la monarchie, quoi. C'est que tu peux pas être une personne humaine et ce symbole-là. Ça clash forcément à des moments. C'est genre, la personne reine et la personne Elisabeth, elles vont devoir trouver un terrain d'entente et ça va pas toujours être facile, quoi. On a parlé de Penny, on a parlé de Philippe, on a parlé de cette opposition un petit peu et de cette réconciliation entre Penny et Philippe. Il y a un autre thème de cet épisode qui est aussi, bah, du coup, on n'a pas du tout parlé du fait que ça parle aussi de la fin de l'Union soviétique et de l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin, premier président élu par le peuple russe. Il y a John Major, du coup.
Un sacré boug.
Un ride. Un bon bestiau, quoi, les gars. Il y a John Major, le premier ministre, qui, du coup, réintervient aussi dans la série, parce que c'est le premier ministre à avoir rencontré le premier président russe élu démocratiquement. Est-ce que toi, c'est un truc auquel t'as été sensible, le fait de se balader un peu dans la fin de l'Union soviétique et le début de la Russie? Moi, ça m'a plu, mais je sais que voilà, j'ai un petit kink Russie 19e, 20e, donc j'étais déjà un peu conquise, tu vois. J'étais là, oula, let's go, Yeltsin, on aime bien.
Je t'aime trop.
Je frétille un peu pour Dostoïevski aussi, voilà.
Mais en vrai... Moi, je pense que c'est pas tant forcément que ça soit la Russie ou pas la Russie qui m'intéressait, mais ce truc de, en effet, t'as un premier président élu versus une monarque. Quand tu sais, enfin, tu vois, genre, en fait, tout le parallèle avec les Romanov est là pour quelque chose, tu vois, c'est aussi parce que, en fait, le gars, Yeltsin fait partie des gens qui étaient a priori plus ou moins là pour le
pas
décès des Romanov.
Là,
MDR.
Oui.
Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est comment est-ce que tu fais se rencontrer un mec qui croit pas du tout à la monarchie et qui est en mode, on les a assassinés chez nous, quand, littéralement, tu vas voir un autre chef d'État qui, dont la vie, c'est, j'ai été choisie
par la reine
Dieu,
d'Angleterre, je visite l'Union soviétique, je suis
pas,
là.
Y a un, ben, franchement.
Ils ont quand même,
vous
entre
êtes sûr
autres,
que j'y vais
peuple prouvé que...
Je vais envoyer mon fils, plutôt,
peut-être
non.
On peut choisir qui nous gouverne plutôt que de le subir. Après, c'est pas une monarchie de, enfin, c'est une monarchie parlementaire et tout, c'est... Je sais pas la reine qui gouverne le Royaume-Uni, mais quand même.
Mais quand même, ouais.
Ouais, c'est... Ok, faut se serrer un peu, les fesses, quoi. Et je pense que du coup, moi j'ai adoré la scène où il parle en russe du coup et c'est pas traduit donc la reine
incroyable.
Ne sait pas ce qu'il dit et en même temps ça a fait un peu écho à un futur épisode où il y a Mohamed Al-Fayed et son fils Dodi
qui
parlent en arabe et leurs compagnes respectives qui disent mais toi tu parles pas arabe donc c'est hyper mal poli et la compagne de Mohamed Al-Fayed qui dit il y a pas besoin de parler arabe pour savoir ce qu'ils disent. Et ce qui est vrai, genre tu comprends le ton de la conversation que c'est pas positif envers elle quoi. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la reine ne comprend pas, enfin, on lui dit pas exactement ce que Bruxelles-Tin a dit, mais elle comprend bien l'intention, et ce qu'il dit, c'est elle devrait se calmer, elle fait un peu la meuf, parce qu'elle lui a mis, en fait, elle lui a mis un coup de pression de...
Sur les Romanov.
Ouais, sur, en fait, c'est la maison où les Romanov ont été, remember, assassinés de façon not cool, genre, elle est un peu en mode fin de la monarchie, ok, fin des tsars, ok, la forme, c'était not good, tu vois, c'est un crime de guerre, vous avez buté des enfants, c'était aussi ma famille, donc... Mm. Quand même bif bof et du coup elle lui reparle de ça et la version officielle de l'interprète c'est oui nous ferons tout ce qu'il faut etc pour réparer ça et du coup d'où les analyses ADN pour confirmer l'identité des corps qui ont été retrouvés mais ce qu'il dit lui la version du coup non officielle c'est qu'elle se calme bien avec ses exigences et qu'elle se rappelle de ce qu'on a fait la dernière fois qu'il y en a qui ont trop pris la conf quoi et je suis là
elle va finir avec une baïonnette dans le cul globalement hein. C'est ça qu'il dit. Littéralement, je pense qu'il y a cette phrase. Littéralement.
Oui, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce truc aussi de... C'est une saison, je trouve, encore plus que les autres, qui est extrêmement sur la famille royale, qui regarde le nombril et qui pense beaucoup à c'est quoi la famille royale, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe dans notre famille, et qui tourne en boucle, qui est un peu moins ouverte sur le monde et la vie normale des vrais gens d'Angleterre et du reste du monde. Et du coup, je trouve que les confronter à... une personnalité politique qui est vraiment en mode mais en fait ça n'a pas de sens enfin c'est littéralement comme si n'importe quelle personne arrivait et disait bonjour je suis le grand glaqueduc de Prussie tu vois c'est genre bah en fait ça n'a pas de sens ce que vous racontez et calmez-vous en fait descendez vous n'avez pas de légitimité spécifique à faire avoir le poste le statut que vous avez donc
bah c'est ça quand tu
en fait
tu crois
la reine, elle
au peuple
Yeltsin,
qui élit
à minima de égal à égal voire de supérieur à subordonné lui il est là mais littéralement tu es qui tu vois
Oui,
qui a voté pour
H24 aussi.
Oui, alors apparemment, c'est dit dans la série et Maloukiel confirme, Yeltsin a surtout été connu pour être perpétuellement sous et avoir eu un fou rire d'anthologie avec Bill Clinton, mais en vrai, il était vraiment pas top pour la Russie. J'entends.
Je pense qu'on a compris vite fait, hein. Vu le perso, tu te dis pas, genre vraiment lui, un excellent président,
tu te dis
je
pas,
pense.
La Russie a
alors
bien
là,
gagné au change.
Ouais, ils se sont bien fait plaisir.
En même temps, nous, on a décapité les rois et genre juste après, il y a eu la commune. C'était pas fun, not fun. Et après, il y a eu des rois, quand même, un peu. Et après, on était là, ok, non, empereur.
Après,
et après, on a eu des empereurs, et genre, Napoléon, il a dit, je suis chef, et on était là, ok. C'était...
Ça revient au même que la monarchie, non?
Des fois, peut-être. C'est deux pas en avant, un pas en arrière, puis deux pas en avant, c'est voilà, faut savoir revenir un petit peu sur ses acquis.
Le combat de Mimi, always, what about les petites gens. Mais je trouve...
Mais la gorge,
vraiment...
enfin!
Vraiment, je trouve que cette saison, pour le coup, elle est vraiment complètement détachée de ça, quoi.
Ouais, ça manque un peu. Et
alors qu'il y a d'autres saisons où c'est vraiment bien. Et en plus, notamment, moi, je trouve ça dommage parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du fait que c'est la récession, que c'est compliqué pour les Anglais, machin, nan. Et t'es vraiment en mode...
Littéralement, l'épisode 1, c'est la dichotomie entre la reine qui veut sauver son yacht personnel et la récession économique aux États-Unis avec des gens qui n'ont pas de logement, quoi.
Sauf que c'est la récession économique, mais ils te le font passer en mode écouter la radio, tu vois.
Oui, te le montre.
Alors qu'il y a des épisodes des saisons précédentes où c'est en mode c'est la merde chez les mineurs et en fait il y a eu un accident dans les mines donc en fait tu vas y aller et tu vas affronter le regard des gens, en fait, qui, toi, t'es dans ton palais paisiblement quand il y a des gens qui sont littéralement en train de creuser pour avoir du charbon, tu vois, donc.
Ouais, là, c'est moins assumé de quoi que ce soit, rapport à la réalité, enfin, ce contraste entre les prises de tête de la famille royale et la réalité de la vie des Anglais et des Anglaises pendant ce temps. Mais il y a un moment où, du coup, ils essayent de tisser un parallèle entre les vrais gens et la famille royale. C'est l'épisode 9, où c'est l'épisode du divorce entre Charles et Camilla. Ouais. Où, du coup, ils ont fait ce choix pas inintéressant de réel, où ils mettent en, du coup, en miroir plein de couples de la vraie vie, de la société civile, qui divorcent pour plein de raisons différentes. Et Charles et Camilla, dont on voit, Charles et Diana, pardon, dont on voit pas la conversation. Oups! Donc on voit pas la conversation, j'aurais adoré. Ouais. On voit pas la conversation en mode en thérapie avec le, je sais pas, l'officier de l'état civil qui fait le divorce. Mais en tout cas, on a une comparaison entre le reste du monde et ce couple-là. Est-ce que pour toi ça marche?
Moi j'ai bien aimé que ça soit traité. En fait, moi ce que j'ai adoré, c'est le moment du procès. Où il y a vraiment le juge, ça fait 800 fois qu'il dit la même chose et que vraiment le seul truc qu'il a à dire c'est ok, est-ce qu'il y a des parties qui ont quelque chose à dire? Non, très bien, alors j'accorde ce truc machin nan, nan. Et il le dit 15 fois avant que ça soit le truc de du couple 31, que ça soit Charles et Diana.
Yes.
Et littéralement il y a 20 journalistes derrière qui sont là pour littéralement 3 secondes. Enfin genre, et moi j'ai trouvé ça génial.
Genre, ça arrive tout le temps.
Ça n'a aucun
mais
intérêt.
Mais en fait, on a décidé que c'était important quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un truc de la vie.
Et vraiment ça n'a aucun intérêt d'être dans cette pièce précisément puisque littéralement juste le gars il dit bah OK. Enfin en fait du coup les parties sont d'accord donc let's go quoi. Et du coup moi j'ai trouvé ça marrant comment c'était amené de ouais littéralement c'est comme tous les autres personnes en fait tu passes devant l'administratif que tu sois Charles et Diana ou Jean Dujardin comme mauvais exemple pas.
Mais est-ce que les connais chercher un nom de français random genre Jean Dujardin
je cherchais littéralement un nom de français random et m'est venu Jean
François
Dujardin.
Buisson
oui voilà littéralement Jean Dujardin ça marche pas.
Je t'adore que tu sois Jacques Chirac ou le prince Charles.
Oh vous avez compris ce que je voulais dire quoi.
Lavez chez vous.
Que tu sois François
le chouchou et loulou gay.
Eh
ben oui car un jour Jean Dujardin a dû passer
mais
devant
oui,
un tribunal car je crois qu'il a été marié puis divorcé avec Alexandra Lamy. Il a dû dire Jean Dujardin, bah quelqu'un, peut-être que quelqu'un a pris des photos à ce moment-là.
Peut-être, c'est possible. Je suis morte.
En vrai, c'était le même choc pour les trentenaires. Je suis
c'est
pas
vrai.
Sûre que bien le divorce sûr. Jean Dujardin Alexandra Lamy ait été de la même ampleur que Charles,
que Charles
et Diana.
Et Diana.
Mais je peux dire que c'est notre Charles et Lady Diana français, tu vois.
Oh là là,
pas,
ça me va
pas mieux.
Bref, donc, passer devant le juge comme Jean-Michel, tout le monde, quoi. Voilà, cette fois, ça marche.
T'as dit à chaque fois un pseudonyme différent. T'es pas resté sur François Buisson, à un moment, t'as dit François Français. Et après, Jean-Michel, tout le monde. J'adore. Oui, je pense que ça, pour le coup, ça appuie le thème. Mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que un des thèmes principaux de cette saison, c'est vous n'êtes pas spéciaux. Vous êtes juste des gens.
Oui.
Et descendait et en même temps j'ai pas mais on en a un peu parlé dans le premier débrief de la première partie cette idée de peut-être que comme le réal est enfin le créateur de The Crown Peter Morgan est fasciné par la famille royale et la reine Elizabeth notamment il a déjà réalisé The Queen qui est sur elle et tout et a priori il est alors je sais pas s'il est royaliste en mode c'est son système de politique préféré
oui, mais
en tout cas il est
par ça quoi.
Il est pour la continuation de la monarchie au Royaume-Uni, quoi. Il est pas pour la boule.
Oui, car il est pas anglais, finalement.
Oui, voilà. Il est anglais.
Si, il est anglais.
Peter Morgan. Ah oui, The Crown, c'est un truc britannique, c'est pas un truc américain.
Ah, j'ai cru que c'était des Américains qui reprenaient l'histoire.
Dites-moi si je me trompe. Attendez le doute. Mais non, je crois pas que c'est un truc d'Américain qui se touche sur... Ah, ça change ma lecture si c'est un Américain. Moi, je pensais vraiment que c'était un Britannique qui, du coup, avait grandi... Et un Britannique d'un certain âge.
Britannique, Britannique, tout va bien.
Ok, ok. Qui a grandi avec avec la figure de la reine Elisabeth, cette révérence, ce respect potentiel.
Pourquoi j'ai cru que c'était un américain boss parce que c'est Netflix, je me suis dit c'est des américains mais pas du tout.
Après, dans le podcast du coup dans The Ringerverse, très bon podcast de débrief de série avec Joanna Robinson et Mallory Rubin quand elle débrief The Crown, à un moment elles disent si vous êtes des Américains qui matent The Crown et du coup elles vont pour expliquer un truc et elles font une pause et elles sont là. Je pense que c'est pas. En fait, je pense que c'est plutôt surtout des Américains qui regardent The Crown.
Ouais.
J'étais là, ok, je pense elles ont ce regard de The Crown, c'est la monarchie rendue digeste et les dramas de la monarchie rendue digeste à en fait le reste du monde qui n'a pas à dealer avec la présence de cette monarchie tout le temps, mais peut-être que quand t'es peut-être que c'est un peu
puis aussi en
regarder
fait...
Emily in Paris, tu vois. Ou moi, en tant que Parisienne, Emily in Paris, ça, je trouve ça nul parce que je suis là, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à ma vraie vie.
Mais
et
je pense
peut-être
c'est comme
quand
si
t'es britannique
faisait...
et que tu tapes déjà la monarchie, tu vois, dans la vie et que tu regardes ce truc qui est un peu qui l'humanise beaucoup, oui. Peut-être que ça te broute, tu vois. De
puis
te
même
taper,
si c'était, tu vois, une série sur la politique française, peu importe de quelle année, tu vois, en vrai, toi, t'es en mode, bah, en vrai, moi, j'ai grandi en France dans les années, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Si tu me fais un truc sur les années Chirac, je vais être un peu en mode, bon, should I care about this TV show, tu vois.
Moi, j'aimerais trop une série sur les années Chirac, parce qu'en plus, j'étais genre, là, mais
oui,
pas
bon,
très grande et tout.
Quand t'es petite.
Mais
genre, je sais pas.
Une
tu vois, genre, en fait,
je me mais oui, j'entends, oui.
Si c'est... t'as grandi
en, fait,
en,
connais,
en voyant, c'est ça, les journaux télé et
oui,
en.
Oui, si t'as multisaturé du By Charles et Diana,
ouais.
Est-ce que tu vas regarder 10 heures sur Netflix de.
Mais je pense que oui, parce que je regardais une vidéo, là, de. Sur YouTube de C'est dans l'air, je crois, qui parlait un peu de la saison 5 et tout, et à quel point. Ouais, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube.
C'est dans l'air.
Bah, j'ai tapé The Crown saison 5. J'ai tapé The Crown saison 5 et il y avait une vidéo qui avait l'air intéressante de
ouais,
C'est dans l'air.
Bien,
alors j'ai
c'est
cliqué.
Dans l'air, il me semble, c'est une bonne journée.
Et donc, du coup, en gros, il y avait une meuf qui est rédactrice en chef de Point de Vue, qui a l'air d'être comme ça, dit comme ça, un magazine de droite, mais qui a l'air plutôt d'être intéressée par tous les trucs de monarchie et tout. Et donc, probablement un truc de droite.
Je crois que je sais qui c'est. Parce que je crois que j'ai fait un stream non. avec elle sur Mademoiselle pour The Crown saison 4.
Ah, mais oui, bah oui, probablement.
C'est elle.
Oui, je crois que c'est elle.
Donc, en gros, je vais vous retrouver son nom, mais c'est effectivement une journaliste de Point de Vue.
Attends,
qui est un magazine, voilà, qui parle de sujets un petit peu, divers et variés, mais aussi un peu bourgeois, et qui est, spécialiste de la famille royale. Et on avait fait un live avec Manon et elle sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Manon qui est une employée de Mademoiselle, une rédactrice, et qui est à fond sur la famille royale et The Crown et tout. Et on avait fait un live débrief de la saison 4 avec du coup un peu une experte de la famille royale.
Experte de la famille royale et probablement très haute dans la bourgeoisie, Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Non, voilà. C'est pas elle.
Non, c'est pas elle.
C'est pas la même. Mais c'était une meuf de Point de Vue qui est venue aussi.
Bah là, c'est la rédaction chef. Et donc, bref, elle parlait.
Elle s'appelait Adélaïde de Clermont-Tonnerre, putain.
Ton prochain nom dans un jeu de rôle, Mimi.
Mais j'ai l'impression que c'est un personnage créé par Kalindi Rampfel.
J'avoue!
Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Ça pourrait être son prochain
chat! Mais grave! Ou son premier iguane. Tu vois.
Ah oui, de ouf. Et donc bref, en gros, elle parlait du fait que là, le roi Charles III, du coup maintenant, a baissé dans les sondages à cause de The Crown.
Bah
parce
ouais,
qu'en fait, il y a plein de jeunes qui ont pas connu les années 90, qui sont un peu en mode « Wow, he's a bastard !» Donc en fait, on va moins faire confiance à la couronne de la ligne Anna, tu vois.
Ah mais je pense
et donc,
que
y a
et
un peu...
je pense aussi que c'est pour ça qu'ils étaient emmerdés que la reine Elisabeth décède
ouais.
juste avant la diffusion de cette saison,
ouais.
c'est qu'ils savent que ça va entacher le début de règne de Charles yep. et après bah c'est
et tu sais, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais en tout cas, il y avait Netflix, enfin il y avait le palace Buckingham, ils avaient demandé à ce que y ait le truc This is fiction.
Oui, il y a un avertissement qui
un
dit
avertissement
que c'est
machin.
De la fiction et pas un
Netflix,
auteur.
Il avait dit non, MDR. Et en
oui,
fait,
et
je
là,
crois que là, ça a été genre, en fait, c'est obligatoire. Do it. Parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est pas de la fiction.
Oui.
Et que vous connaissez ce qui s'est dit entre le prince Philippe et la reine Elisabeth à X moment, tu vois, alors que...
Oui, alors que
bah,
pas
si
du
t'as
tout,
un minimum
c'est évidemment
de...
extrêmement romancé et c'est des personnages, c'est pas des personnes réelles.
Mais bon, c'est vrai que quand on te vend un truc de personnalité, si t'as... Enfin, vraiment,
en vrai,
moi
je trouve pas que c'est déconnant de mettre l'avertissement.
Oui, c'est ça.
Vois. On peut dire,
moi,
les gens, ils sont
ans.
Trop cons, ils ont qu'à le comprendre tout seul. Et je suis là, tu sais quoi, c'est pas grave, enfin...
Oui, oui.
Tu vois, genre, on n'est pas trop con pour comprendre un passage piéton, mais on a quand même mis des clous et des lignes dessus.
Ouais.
Enfin, juste, c'est pas grave de s'adapter au doute, tu vois, au maybe, à des gens. Ça fait jamais de mal de le rappeler.
Ouais.
C'est flou. En vrai, la limite, elle est floue aussi, parce qu'il y a des scènes qui sont des trucs qui sont vraiment
giga
arrivés.
Vrai, ouais.
D'autres qui sont des coquilles de, ok, le contexte est vraiment arrivé, mais le contenu, on sait pas.
Du tout, ouais.
D'autres qui sont quasiment des images d'archives recréées, bah, seconde par seconde. Toute la presse aussi loue le réalisme des incarnations, notamment tout ce que Elisabeth Debicki elle a fait pour incarner Lady Diana, alors que en soi physiquement elle lui ressemble pas tant, et notamment elle est ultra grande et ultra fine par rapport à Diana.
J'ai vu une vidéo là du coup de Dominique West et non, je regardais les trucs de Netflix behind the scenes machin nan, et il parle de toutes les accessoires et tout, et il y a vraiment Dominique West et Elisabeth Debicki à côté, et il y a une meuf, donc elle est la chef accessoiriste de The Crown, au milieu. Et donc t'as vraiment genre, en fait tu te rends compte que Dominique West est quand même un peu grand, je pense. Ouais, mais elle est immense. Et là j'ai fait
c'est
genre
une très grande
en fait c'est vraiment la première fois que je me rends compte qu'elle est grande, parce qu'en fait dans la série ils ont réussi à faire en sorte que ça soit pas
choquant. Donc t'as aussi plein de trucs qui louent à quel point c'est réaliste, ça colle au lever de sourcils près, au petit regard par en dessous près qui est bien timé, pareil que dans la vraie interview de la vraie vie et tout. Donc moi je blâme pas le encore une fois, si on va sur Wikipédia après The Crown, c'est aussi parce qu'on est là, c'est pas clair dans l'épisode ce qui est vrai ou pas, et tant mieux. Je pense que c'est une des missions de la série de nous donner envie de nous inspirer sur l'histoire et sur cette histoire, mais en vrai ça coûte rien l'avertissement.
Après,
c'est pas grave.
Après clairement toute l'interview Panorama very true, very chaque phrase.
Very true. Yes. Alors attends, sur le chat, j'ai 24 ans. Clairement, je ne connais que les agissements de Charles à travers la pop culture et cette série, à tel point qu'au début de la série, quand je voyais le comportement de Charles envers la reine, j'étais en mode « How dare you stand where she stood ?» Alors que techniquement, j'y connais rien. Donc elle était en mode « Comment oses-tu te prendre pour ne serait-ce que l'égal de la reine ?» Alors qu'en vrai, encore une fois, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui se passe entre quoi ? Moi, c'était l'inverse. Dans les années 90, j'avais gardé Charles, c'est trop un bâtard. Et à la mort de la reine, ils ont commencé à parler du fait qu'il est un peu plus moderne, plus écolo et tout. Du coup, j'étais là, ah ok, ça passe. Et j'ai vu il y a pas longtemps, il se trouve que le roi Charles III a décidé cette semaine il a annoncé que dans toutes les cérémonies royales, etc., le foie gras était banni pour des questions de maltraitance animale et tout. Et j'ai été voir les commentaires sur Reddit, donc un grand forum international, et le top commentaire c'était. C'est marrant parce que depuis qu'il est roi, je suis quand même souvent d'accord avec lui. Enfin, il y avait toute cette storyline de personne n'a envie qu'il devienne roi, personne n'a envie que la reine meure, il devrait abdiquer en faveur de William direct. Et en fait, il est roi, pas depuis très longtemps, mais c'est genre... En fait, c'est ok, il dit pas des dingues, il est pas hors sujet, il est pas hors courant.
Après, je pense qu'il sait très bien que...
Bien sûr.
Il a intérêt à faire des trucs pour que le... public soit avec lui, tu vois, il va pas. Et encore, je pense que tu vois là, interdire le foie gras.
Il devient roi juste avant The Crown saison 5, il devait avoir tellement le max, tout the max en mode, attends.
Et je sais plus.
Tout TikTok va découvrir que j'ai trompé Lady Diana et qu'après, elle est, spoiler alert, décédée d'Axe.
Et surtout, tout le monde va découvrir que j'ai voulu être un tampon.
Non!
Moi, c'est surtout ça qui me... Tu sais, genre, t'es en mode... Aujourd'hui, il s'est passé du temps.
Avec ça,
mais aujourd'hui,
tu vois,
on peut
accepter les petits kinks.
Non, mais bien sûr, on l'adore.
Être un connard,
mais
c'est
ça me
plus compliqué.
Mais qu'est-ce qu'on voulait dire ? Je sais plus. J'ai perdu où est-ce qu'on en était.
Du coup, on avait commencé à aborder. Et du coup, let's go. L'interview. L'interview de Panorama. Lady Diana, qui est du coup le cœur de l'épisode 8, Gunpowder. Donc ça commence dans l'épisode 7 avec ces personnages qui commencent à se rapprocher d'elle, ces mecs de la BBC qui commencent à se rapprocher d'elle pour l'interviewer, et qui jouent sur sa paranoïa et qui lui font croire des trucs et qui falsifient des preuves pour qu'elle se confie à eux, auquel cas j'étais là en mode, très vite j'étais du coup là en mode, ah oui mais non, ah mais ça c'est... on est où là, déontologiquement? Et après, ils ont tout leur grand discours sur qu'est-ce que ça représente la BBC et tout. Et t'es là, mais enfin. Mais je pense, a priori, c'est vraiment ce journaliste, Martin Bashir, qui a fait des dingues et pas forcément la BBC qui était au courant de,
en train de falsifier
des trucs. En tout cas, dans la série, son rédac chef a pas l'air d'être au courant.
Non,
et dans la vie,
courant,
a priori,
c'est
si j'ai bien compris, il l'était pas, quoi.
Personne n'était au courant. Moi, j'ai regardé un peu.
Et ça date
il
y a pas si longtemps.
Ouais, c'est sorti en 2020 ou 21, je sais plus. Donc vraiment.
En fait, ok, The Crown sort il y a 4 ans. Dans cet épisode, on ne sait pas qu'il a falsifié des trucs, quoi. C'est vraiment très récent.
C'est
qu'on
ça.
Sache.
Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont écrit The Crown saison 5, mais je pense que vraiment ils ont dû réécrire quasiment la moitié d'un épisode, probablement.
Je les imagine genre tout jeté par terre en mode putain. En fait, on vient de se rendre compte.
Une nouvelle storyline.
Et c'est ça de traiter. Donc la limite de Peter Morgan, c'est je parle de rien qui est plus enfin 20 ans c'est ma limite. Il y a 20 ans, si c'est plus vieux qu'il y a 20 ans, je peux en parler dans The Crown, sinon non. Bah 20 ans c'est court.
Ouais, c'est court.
C'est pas des dingues.
Yeah. Et donc Martine Bachir a vraiment falsifié des documents, a vraiment fait croire des trucs, et a priori le frère de Diana s'est vraiment posé des questions et a vraiment dit genre je suis pas sûre.
Ouais, ça commence à être louche.
Ouais. Mais moi, ce qui me... Alors, autant je comprends toute la storyline de... elle commence à avoir des doutes sur est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on la surveille, machin, nan, nan. Parce qu'en fait, littéralement, c'est sa vie d'être surveillée, écoutée H24. Enfin,
oui, c'est
genre,
ça.
Écoutée au téléphone, je sais pas, mais surveillée par des paparazzi, vraiment.
Un terreau qui se tient. C'est ça. Oui, probablement que t'es écoutée, probablement que les gens surveillent ce que tu racontes et tout. Mais lui, il appuie sur tous ces leviers-là, quoi.
Moi, juste ce que j'ai trouvé dans cet épisode qui est vraiment... avant l'interview Panorama, c'est le truc un peu chelou, j'étais en mode, attends, Diana, depuis jour 1, il nous la présente en mode lago, et elle est suivie par H24, par des paparazzi, il n'y a pas un moment où elle met un pied dehors, où elle est pas follow par quelqu'un et tout, plot twist, c'est ce qui cause plus ou moins sa mort.
Once again, spoiler de la vraie vie.
Et quand même... elle va retrouver Martine Bachir. Alors, elle est à l'hôpital au KLM, mais surtout, elle va retrouver Martin Bachir, Martine Bachir, dans un sous-sol de parking incognito. Tu sais, je suis en mode, excusez-moi, mais
ça, pour le coup, pour moi, justement, le setting parking souterrain, c'est un code de cinéma et de réalisation. De,
voilà.
On est incognito, personne nous voit, personne nous a suivis. Donc ça, moi, j'étais plus dérangée par, mais elle est à l'hôpital, personne là, enfin. Elle est à l'hôpital, il devrait y avoir tous les paparazzi du Royaume-Uni qui sont au même hôpital. Donc à la limite, la première fois, je suis là, elle vient d'arriver, personne ne le savait. Il n'y a pas les smartphones et tout, mais visiblement, elle vient régulièrement soutenir sa pote slash...
En fait, son ostéopathe.
Son acupunctrice, je crois. Mais on sent aussi qu'elle est un peu égocentrée et qu'elle n'est pas trop là pour elle. Ce que j'ai trouvé intéressant, ce truc de pas trop non plus angéliser Diana.
Ouais.
Et en fait...
Moi j'ai trouvé ça dommage
parce
que
ça elle est pas hyper
que
à la hauteur,
commence
quoi.
Que dans cet épisode.
Oui,
tu vois.
Oui, c'est vrai qu'avant on l'a... mais
que...
pour moi non, il y avait aussi le truc de avec ses enfants, le fait qu'elle soit très
oui, je comprends.
Qu'elle les traite comme j'ai besoin de vous et vous êtes mes potes et pas comme c'est leur mère. Enfin, c'est une bonne elle est aussi montrée comme une bonne mère et tout, mais il y a ce truc d'interdépendance que William verbalise dans cette saison de en fait, j'ai pas envie que tu racontes ça, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là. Donc il y avait un peu ce côté-là de OK, oui, elle a des fragilités, mais elle est pas parfaite. Et là, elle est en train d'accompagner une amie, entre guillemets, dont le mari est en pleine opération. Et elle est très concentrée sur... Est-ce que le chirurgien, il flirte avec moi? Il m'a dragué. On est
et Philippe Graham dit un truc très juste, avec une drôle d'obsession avec les Pakistanais. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bizarre.
C'était chelou de l'amener.
C'était trop chelou.
Ça, pour le coup, j'ai cherché un peu. Et,
il n'y a pas trop d'historique.
Enfin, elle est sortie avec des gens variés.
Oui, voilà ça.
Elle n'a pas une fétichisation des mecs racisés.
Et j'ai trouvé ça trop bizarre d'écrire Martine Bachir dire en gros, j'ai repéré qu'elle avait une espèce de fétichisation des Pakistanais.
Et il capitalise dessus, lui.
Et oui, il capitalise dessus, mais il en parle à son rédac chef, je crois, en disant genre non, mais il y a une vraie connexion entre elle et moi. J'étais là, vraiment, littéralement, elle t'a demandé d'où tu viens, t'as dit d'Angleterre, et elle a dit non, mais vraiment d'où? Enfin, genre vraiment le truc
oui, parce
le plus raciste
lui, il est
ever,
là,
tu vois.
Bah, c'est son rédac chef qui lui dit, mais t'es le mec qui passe ta vie à répondre. En fait, je suis britannique. Et justement, à pas à être là en mode, mes origines me définissent pas, je suis comme vous, je suis britannique. Même pas je suis comme vous, je suis britannique. Et du coup, le fait que
il joue
cette corde-là avec Diana et qu'il lui parle à des moments...
j'ai trouvé ça trop chelou,
nom,
moi, cette story-là.
C'est en une des langues du Pakistan et tout. C'est un peu chelou et c'est, ça va un peu nulle part aussi.
Ouais, et puis ce truc de genre, tu sais, genre, Diana, d'un coup, a été une fois au Pakistan et ça me rappelle un peu, ça me fait un peu l'effet, genre, de tous les Européens qui vont en Inde et qui sont en mode, j'ai été en Inde, quoi.
Oui, c'est ce qu'on appelle le white savior.
Ouais.
Ce
qui était vraiment littéralement le rôle de Diana pendant toute sa vie. Hein.
Oui, mais oui, parce que
puisqu'elle a fait ça
de boulot caritatif à travers le monde et dans un état colonial, rappelons-le quand même, le Commonwealth, on s'est tous mis d'accord pour se tenir la main et être un peu le même pays, c'était vraiment genre, vous n'avez pas le choix, cordialement. Et il y a des vrais maxi-bails de racisme quand même dans la famille royale, donc en fait j'entends que c'est possible d'imaginer que Diana, donc une meuf blanche, aisée, noble, dans les années 90 en Angleterre, et eu un rapport peut-être un peu trop je veux un mec cacao avec les mecs racisés, genre oui ça se tient. Mais j'ai pas l'impression que ça a été 100% avéré, tu vois, enfin je suis un peu là en mode
D'où ça sort, quoi.
Je me dis, peut-être ça sert à nous montrer à quel point Martin Bachir, il a pas de race et qu'il va lui-même renier ses propres valeurs, de rappeler perpétuellement, en fait, je suis pas ceci ou cela, je suis britannique.
T'as checké un peu les bails de Martin Bachir en dehors de ça? Parce que du coup, moi, j'étais direct voir sa page Wikipédia en mode, est-ce que c'est vrai qu'il a falsifié des documents et tout?
Ok.
Et en fait, faut savoir que...
Ce des Wikipédia, name a better dur.
Et en fait, savez-vous que c'est lui qui a fait tout le docu qui est sorti dans les années 2000 sur Michael Jackson, et où il y a les premières accusations de il est maxi pédophile, enfin pédocriminel.
Ah mais attends,
Michael Jackson, c'est
ah mais tu vois là, t'es en train
Neverland
de...
je sais pas quoi là.
Oui,
Living with Michael Jackson, et c'est le premier gars qui est entré à Neverland et qui a genre vécu avec Michael Jackson pendant je sais pas combien de temps.
OK.
Et en fait, il a fait genre il a été giga bien accueilli parce qu'il était en mode je fais un documentaire sur Michael Jackson, je suis trop sympa naninana. Et après le cut du documentaire, c'est
oui, c'est le mec qui a fait l'interview de Lady Diana sur la BBC, enfin
il est pédocriminel, Michael Jackson. Et en fait, il y a eu des trucs après qui sont sortis. Enfin, genre, moi, je me souviens dans les années 2000, moi, Michael Jackson, pédocriminalité, toute ma vie, c'était, c'était intertwined, tu vois.
Oui.
Parce que j'ai jamais vu ce documentaire, tu vois,
mais parce que
dans ma tête,
ça
avait popé à ce moment-là.
Ça a marqué la culture, quoi.
Ouais. Donc, c'est lui qui a fait
ça. Ouais, ok. Bah, tu vois, hyper intéressant parce que je suis là, ok, bah, ça me fait moi aussi, du coup. Revisiter des certitudes que je pouvais avoir ou des machins comme ça, parce que c'est vrai que
et du coup c'est pareil, enfin tu vois, genre docu, quand le docu est sorti, tout le monde était un peu en mode, enfin tout le monde du côté de Michael Jackson, ils étaient un peu en mode en fait on t'a accueilli comme un roi et on était trop sympa avec toi et t'étais en mode waouh, trop mignon la relation avec tes enfants, ah ah ah, et en fait tu sors un documentaire où littéralement tu l'accuses
de pédocriminalité,
du coup pédocriminalité. Mais en même temps avait-il tort?
On ne sait pas. On ne sait pas, on n'y était pas. En vrai, je sais pas, genre, est-ce que le monde a tranché sur cette question? Je ne sais pas. Bon, je suis restée à on ne sait pas. Michael Jackson avait l'air d'être une personne très perturbée à plein de niveaux. Est-ce que du coup, il restait dans sa tête un enfant, ou est-ce qu'on était vraiment sur des bails de pédocriminalité? I don't know. Je ne sais pas où on en est en termes de preuves, de machin. Donc,
moi non plus, j'ai pas su.
Je suis assez flou, quoi. Donc oui, un peu chelou cette vibe fétichisation. Ada Wardour dit « Sans parler de fétichisme, c'est la première de la famille royale à sortir avec des mecs pas blancs. » Bah, c'est peut-être aussi la première époque où elles peuvent, où c'est un choix, où c'est une option. C'est ça aussi, c'est que je pense qu'avant Diana, si Peter Townsend, il avait pas été blanc, ça aurait été encore plus la Hesse, et ça aurait été vraiment, je pense...
Bah, regardez déjà l'épisode 3 où il y a un mec noir, enfin, tu vois, genre le seul mec noir qui bosse pour la famille royale. Déjà, c'est it's a thing, tu vois. Alors, quand t'as sortir et te marier avec une personne de couleur, waouh, ils y étaient pas. En même temps, forcément, vu l'historique colonial, tu vois.
Oui, et certes, bah, Diana a eu aussi des relations avec... en fait, c'est aussi ça, c'est que là, ils ont l'air de tourner ça en mode... Ils sont tous les deux pakistanais, c'est important. Mmh. Et après, bah, on sait, nous, que... Spoiler, Diana va avoir une relation avec Dodi Al-Fayed, le fils de Mohamed Al-Fayed. Il est pas du tout pakistanais, il est égyptien. Donc, c'est aussi un truc de... Enfin, en fait, si tu sors avec un Polonais, un Breton et un Anglais, on va pas dire... Enfin... On va pas dire, c'est la, enfin, comment dire ça? C'est pas pareil d'être pakistanais que d'être égyptien, et du coup, on va pas regrouper tout ça
sous,
elle fétichise juste les mecs racisés en général parce que ça veut un peu rien dire. Donc, je sais pas, c'était un peu bizarre cette storyline, mais à part ça, moi, j'ai adoré la thématique journalisme, évidemment. Après, j'ai été longtemps, n'est-ce pas, dans le journalisme.
Ah ouais!
Et du coup, bah, forcément, j'aime bien quand on parle de domaines que je connais, quoi. C'est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Et j'ai trouvé ça trop intéressant, ce lien entre la BBC et la monarchie.
Oui!
Et le vieux duc, du coup, tu comprends que c'est le gestionnaire de la BBC, mais qu'il est pas censé avoir d'avis éditorial, et le directeur de rédaction, le rédac-chef, qui est censé du coup avoir son indépendance, mais qui est quand même obligé au moins d'entendre et de connaître son avis. Et on voit qu'ils ont des avis qui vont finir par être dichotomiques sur c'est quoi notre loyauté, qu'est-ce qu'on doit à la famille royale, c'est quoi notre loyauté envers la reine, quoi.
Moi j'ai trouvé ça très intéressant, la discussion autour de pourquoi est-ce que en tant que la BBC on sortirait une interview de Diana.
Oui,
parce que c'est hyper people, machin, nanana. Et en fait ce truc de est-ce que c'est people ou est-ce que c'est politique? Kind of, tu vois?
Oui, c'est est-ce que c'est du fait divers ou est-ce que c'est un sujet? C'est des vraies questions, tu vois, à se poser.
Et c'était intéressant aussi, tu vois, genre tout le truc de. je crois que c'est le bah justement ce fameux dirigeant là de la BBC qui dit qu'en gros c'est une des meufs les enfin que elle est pas stable entre guillemets. Oui. Et que du coup, genre, on peut pas lui faire confiance sur ce qu'elle va dire sur la famille royale, tu vois. Et t'es un peu en mode... d'accord. Qu'est-ce que stable, alors ? Car vraiment, je pense que le reste de la famille royale, pas ouf non plus.
Non, pas ouf non plus. Et en même temps, c'est pas 100% faux.
Non, vois, mais bien sûr, genre... bah, sinon, elle aurait pas... Enfin, tu vois, genre, tout le bail aussi, de genre... t'es surveillé, machin, je pense que ça entre en compte dans... Enfin, en tout cas, dans la série, ça entre de ouf en compte dans le fait qu'elle va commencer à dire des trucs...
Oui, bah ça évidemment que ça l'engraine dans sa paranoïa envers envers la famille royale, mais paranoïa qui est ancrée aussi dans une réalité de bah oui c'est un système encore une fois et c'est un job et en fait elle est surveillée et en même du coup je trouve que ça pose la c'est une très bonne question de responsabilité journalistique
de ouf.
Pourquoi on diffuserait ça mais aussi pourquoi elle voudrait qu'on diffuse ça tu vois ouais. Qu'est-ce que elle a gagné et qu'est-ce que nous on envoie avec la force de frappe de la BBC et tout ce que ça représente comme message, comment on fait shifter la société si on diffuse ça et à quoi ça sert. Et je trouve que c'est des vraies bonnes questions. Après, du coup, à ton avis, toi, t'es rédac-chef de la BBC, tu le diffuses ou pas ?
Oh, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que je veux pas être rédac-chef, car pas de responsabilité, par exemple, ça c'est ma réponse.
Ready to pop the question ? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
J'en sais rien, mais en fait le truc c'est que je repense à un truc que tu vas me dire si je me trompe, mais la diffusion du mariage, etc. C'était sur la BBC aussi.
Je sais pas, mais je pense.
Parce qu'en fait, du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc-là.
Il y a aussi ce lien entre la famille, la monarchie et la BBC, quoi.
Et à quel point...
Et la reine qui est là, je dois être fidèle à la BBC, et la BBC qui est un peu en mode, est-ce qu'on doit être fidèle à la reine, finalement ?
Et du coup aussi, à quel point le... Je sais pas comment dire, mais en fait, comme le spectre des médias a vachement évolué entre la première fois où, ouais, super, ils ont diffusé le mariage de la reine à la télé versus, justement, tout ce truc autour de, le câble et il y a le satellite et donc, du coup, il y a des chaînes, il y en a 12 000 et machin. Il y a aussi le truc où je pense que ce qui est appuyé dans l'épisode-là, c'est aussi Martine Bachir qui est en mode, en fait, si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre. Et oui, vous voulez pas que l'audience aille ailleurs, tu vois.
Mais en fait, il a pas tort là-dessus, mais c'est au moment où tu commences à falsifier des trucs que fait, si ton truc marchait, t'aurais pas besoin de mentir pour qu'il marche, quoi. Si le monde était prêt, si Diana était prête à avoir cette conversation, il y aurait pas besoin de lui falsifier les trucs. Et alors attends, j'ai entendu que parmi dans le podcast Ringerverse, que parmi les documents qu'il a falsifiés, il a fait un faux certificat médical d'avortement pour la nounou de Charles et Diana, parce qu'il a prétendu à Diana que Charles l'avait trompée avec la nounou, qu'elle était tombée enceinte et qu'elle avait avorté.
Non.
Et il a fait un faux certificat médical d'IVG de la nounou. Tu vois, le niveau de maboulerie qu'il a mis dans sa tête. Genre, ok, elle était peut-être sur écoute, et du coup, peut-être qu'il a insisté sur elle était sur écoute, mais non, c'est pas que ça. Il a inventé des bails, et apparemment, la BBC a payé, du coup, énormément de dommages de réparation, en fait, parce que dans l'épisode par exemple, Diana licencie son responsable il me semble, en tout cas il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce que Martine Bachir a fait des faux papiers pour prouver à Diana que ces gens-là la trahissaient.
Parce que moi, j'ai pas
genre dans la vraie vie,
il
y a des gens qui ont perdu leur taf parce qu'elle était là, je veux plus travailler pour moi, tu vois.
Mais parce que oui, il y a l'épisode d'après la diffusion où elle est en mode, je suis toute seule, j'ai perdu la moitié de mon équipe et tout. Et elle le dit d'une manière où j'étais en mode, ah, ils sont partis parce que t'as dit des trucs méchants sur la monarchie. Et après, j'avoue, je n'avais pas fait le lien avec le gars t'as mis dans la tête littéralement que
volontairement. Donc non, je pense que apparemment, c'est vraiment la BBC a payé beaucoup de parce que même si la BBC n'était pas forcément au courant, mais en fait, c'est son employeur, c'est leur boulot d'être au courant. Ouais, enfin, oui, il l'a peut-être fait dans son coin, mais à un moment, enfin, t'es rédac chef, etc. T'es censé vérifier aussi, c'est le rôle du chef, quoi. Et dans les médias, il y a ce qu'on appelle le directeur des publications, qui est la personne qui est légalement responsable de ce qui est publié par le média. Donc normalement, par exemple, si vous êtes journaliste chez Le Monde et que vous publiez quelque chose et que la personne dont vous parlez dans votre article estime que c'est de la diffamation et qu'elle porte plainte contre le média, c'est pas vous qui allez aller au procès, c'est le directeur des publications, c'est lui qui est, ou elle qui est légalement responsable. Après, vous pouvez être attaqué personnellement en tant que personne privée, mais si le média est attaqué, c'est pas le ou la journaliste qui va aller au procès et qui va risquer du coup les peines, c'est le directeur ou la directrice de publication.
Oh,
donc il y a ça aussi qui fait c'est aussi pour ça que la BBC a payé, c'est parce que même si c'est pas tout le monde dans la BBC
je crois
qui a
que la réaction,
c'est la BBC qui l'a décrit.
Je crois que la réaction de la BBC
fait,
en gros, donc pour vous la faire courte, le truc est révélé l'année dernière, en gros à peu près. Martine Bachir démissionne de la BBC, ce qui est plutôt a priori logique.
Oui.
Mais je crois que à la rédaction en chef et direction des publications et tout, ils ont un peu fait ah oui, on est désolé, voici de l'argent. Mais tu sais un peu en mode
c'est possible aussi.
Still our
ce côté genre on a coupé la pomme pourrie qui dépassait un peu trop.
Ouais.
On jette un peu d'argent sur le feu pour l'éteindre et d'un autre côté guess what, on a ton cœur quand même. Et après je suis là
un peu tard de toute manière pour
en fait comme on sait pas le degré de responsabilité de qui savait quoi, à quel point ils l'ont couvert, à quel point ils sont peut-être volontairement pas posé beaucoup de questions parce que mon gars l'audience que ça a dû faire cette ce panorama là, oh là là les chiffres. Et je veux dire, j'ai bossé dans la presse, Loulou aussi, on connaît les chiffres, c'est quand même important. Ça fait des je pense pas qu'on a fait des dingues à ce niveau là quand même chez Mademoiselle, mais il y a un côté où des fois les chiffres ça prône surtout. Et en fait c'est intéressant aussi parce que je trouve que cet épisode, mais c'est peut-être pas montrer assez clairement, enfin peut-être que ça aurait pu être un peu plus appuyé, c'est que je trouve que ça interroge aussi la loyauté de la reine envers la BBC, tu vois, parce qu'en gros t'as quand même ce sous-arc où la reine découvre le satellite et le câble
et là où il y a les courses de chevaux,
il y a plein de chaînes avec des courses de chevaux genre tout le temps, et elle est là attends quoi
trop mignon d'ailleurs ces petites scènes avec son petit-fils qui lui met le satellite et qui lui montre comment fonctionne sa
télé.
En mode un peu d'humanité dans ce monde, ça fait pas de mal, tu vois.
Oui, c'est un peu encore une fois.
C'est littéralement moi avec mes grands-parents.
Pour une fois, on la voit comme
24,
une personne, et on voit William aussi comme une personne, et comme juste un petit-fils qui aide sa mamie à comprendre la télé, quoi.
Un peu, et en même temps, comme un pion aussi, parce que genre sa mère, elle lui dit tu mettras un bon mot pour moi, et genre la reine lui dit oui, t'inquiète, ta mère je la soutiens, elle est bienvenue
et tout.
Tu sais, genre il est vraiment quand même le cul entre deux chaises, quoi.
Ah bah de ouf, mais bon, c'est it's cold être un prince.
Et oui, malheureusement.
Être l'héritier du trône, car c'est aussi peut-être le futur roi. Mais oui, on va parler un petit peu de William Hayton et de William et la reine, pourquoi pas. Mais donc avant, sur cette histoire de loyauté, donc il y a tout ce mini arc de la reine découvre le câble. Et en fait, c'est pas juste pour l'humaniser, c'est aussi parce que du coup, elle fait des infidélités à la BBC.
Oui,
elle a tout son truc de, en fait, la monarchie et la BBC, c'est indissociable. C'est on se sert l'un à l'autre, on est là l'un pour l'autre, on est loyaux l'un envers l'autre. La BBC, c'est obligé, et je ne peux pas faire d'infidélité à la BBC. Et après, on lui dit, mais les courses de chevaux, elle est là, let's fucking go, qui va regarder Energy 12 toute la journée. Et du coup, c'est un peu ce truc de quand la BBC dit, peut-être qu'on lui doit rien et qu'on a le droit de raconter.
Oui, car
en fait, est un sujet international et va être raconté anyway, si c'est pas chez nous, sera ailleurs. Je trouve que ça montre aussi que genre, girl, enfin... En fait, le monde évolue, le monde grandit et
moi,
t'aimes bien avoir les courses de cheveux en direct et la course à l'audience fait que la BBC va diffuser ça, quoi.
Ouais. Et puis il y a ce côté de
La BBC a fêté ses 100 ans en octobre, apparemment.
Ouais. Ils ont d'ailleurs il y a plein de trucs chambés hein, sur la BBC. Je tiens voilà au cas où personne n'était au courant. Qu'est-ce que je voulais dire sur la BBC et la reine? Wesh Louise, cherche dans ton cerveau, ton palais mental.
La loyauté de la reine envers la.
Oui c'est ça que en fait en gros cette interview de Diana, elle cut complètement Diana de la famille royale. À partir de ce moment-là, la reine elle est en mode ok donc en fait it's divorce time. Et en fait Diana plus mon problème tu vois et c'est il y a un moment donné où vraiment à la fin de la saison où elle où il y a le private secretary de la reine qui vient la voir en mode oui Diana elle voudrait aller passer les vacances d'été à Saint-Tropez avec les Al-Fayed et où la reine elle est en mode en vrai j'ai pas envie mais elle fait plus partie de la famille royale donc elle fait un peu ce qu'elle veut malgré le fait que mes petits-enfants y aillent tu vois.
Bah oui, elle dit aussi bah c'est son tour. Enfin tu vois c'est
oui oui, c'est son tour.
Pour
oui,
coup,
mais
c'est un truc de parents divorcés
voilà.
Aussi tu vois.
Mais tu vois il y a ce truc de en fait elle enfin tu vois
oui,
genre vraiment c'est tu
ne
fais plus
choix,
partie de la famille royale donc j'ai plus de d'autorité sur toi kind of tu vois.
Mais quand même juste avant l'interview, Diana elle va prévenir
oui.
En personne Elisabeth, pas Charles, pas Philippe mm-hmm. qui l'a menacé récemment. En tout cas, selon la série.
Oui.
Mais Elisabeth, de l'interview, elle va sortir. Et je te le dis.
Et c'est demain, MDR.
Et c'est, ouais, c'est environ là.
Le jour de.
Et en même temps, mon gars, évidemment, Lago, tu lui donnes genre max 10 minutes d'avance. Oui. Sinon, c'est la reine. Elle va la faire annuler oui, l'interview sûr. Si elle peut. Tu vois, elle va tout faire pour essayer. Donc, tu lui dis.
Le
vraiment,
jour...
tu t'envoies Attends. Le mail au moment où ça passe à la télé, quoi.
C'est quoi le jour des X ans de mariage de Philippe et la reine?
Le jour de leur anniversaire de mariage, tout à fait.
Incroyable.
Et le jour où il y a Guy Fawkes, du coup, la célébration.
Ah non, c'est deux trucs, deux dates différentes.
Ah ouais?
Ouais, Guy Fawkes, c'est un gars qui a voulu renverser je sais pas quel monarque.
Qui a voulu
monarque.
Faire péter le Parlement.
Le Parlement, c'est ça.
Le 5 novembre.
Le 5 novembre, c'est l'enregistrement. De la
ah oui,
de l'interview et donc du coup
du
elle
coup,
elle est en mode je suis plus dans la famille royale.
Oui, elle enregistre donc, parce qu'elle est là, personne va se rendre compte que je suis pas là parce qu'ils sont tous aux célébrations.
Voilà, c'est ça, tout le monde s'en fout de ma gueule ouais. Parce que vraiment vous avez vu depuis à peu près 12 épisodes que je suis seule.
Oui.
Donc du coup à ce truc c'est oh là là, j'ai du mal à parler. C'est une célébration famille royale, tout le monde voit c'est comment ça s'appelle un truc qui brûle là. Comment ça s'appelle? Un feu de joie, un feu de
ouais, un carmentran pour moi.
C'est quoi?
Un carmentran. Attends, est-ce que c'est un mot de la Drôme? Quand j'étais gamine dans la Drôme, on faisait le carnaval du genre à l'école primaire et on faisait une grande effigie comme ça auquel on foutait le feu.
Ouais.
Un feu de Saint-Guy, Saint-Georges.
Eh ben, c'est ça.
C'est un truc comme ça en France.
Il faut que c'est pas ça.
Mais oui, c'est ça. Enfin, en fait, c'est ça. Et en même temps, c'est pas juste. Enfin, Guy Fawkes, c'est un vrai gars qui a vraiment
oui, oui.
voulu faire péter le
un
Parlement et mettre fin au système
oui, oui.
Politique britannique. Donc,
ouais.
C'est un vrai truc aussi qui a du
ouais,
sens
ouais.
dans. Remember que les gens ils peuvent faire péter des trucs et
ouais.
renverser un système politique juste en tuant quelques personnes.
Et donc,
et
du coup,
il est pas passé loin.
Mais du coup, moi, ça, c'est. Je trouve que c'est un truc aussi qui est pas. Enfin, vraiment, cette saison, j'ai trouvé qu'elle était vraiment dans les grosses lignes, tu vois. C'est genre, ils ont pris des traits de marqueur, ils ont
ouais.
fait. Oh, regardez, Guy Fawkes, c'est un mec qui a voulu faire péter la monarchie. Et donc, du coup, Diana, elle enregistre ce soir-là l'interview qui va littéralement faire péter
la
les
monarchie.
Années 90 de la monarchie.
Et
alors...
l'épisode s'appelle Poudre à canon.
Oui.
un peu comme
mode,
si ça
ah
mettait
ouais.
le feu au poudre.
Et il y a à un moment donné Elisabeth qui parle de sa vieille télé qui est en mode ah là là, même les télés sont une métaphore. J'étais
ah
là,
ouais.
stop en fait.
Ah ouais, quand elle
compris,
dit,
arrête.
Mais ici, même les télés sont une métaphore.
Peter Morgan,
là, mais...
arrête.
On va avoir un regard The Office, tu vois.
Ouais,
elle
c'est
va
ça.
Être là, elle va faire un petit clin d'œil en mode quatrième.
Après, attends. Elle va faire parkour.
I wish.
Mon rêve.
Avec les corgis.
Oui. Mais ouais, donc du coup, le soir du feu de joie, comme elle est un peu, littéralement la lépreuse que tout le monde a laissée dans un coin.
Oui. Dans la maison des lépreux.
Voilà. Comme elle le dit si bien.
Dans le pavillon des lépreux.
Et donc du coup, en fait, comme il y a personne à cette soirée-là, là, ils enregistrent. Mais du coup, oui, le soir de la diffusion de l'interview, alors ça, j'ai pas été vérifié si c'est vrai ou pas, mais du coup, Elisabeth est pas devant sa télé, puisque littéralement,
oui.
elle sort pour son anniversaire de mariage,
c'est
regarder
ça, je crois que c'est vrai.
Dream Girl, la comédie musicale.
Choices.
Voilà. J'ai cherché de quel extrait était la chanson, en fait. J'étais là, genre,
okay.
c'est quoi ce morceau? Parce que ça dit exactement, enfin, tu vois, genre, le choix musical est pas.
Oui, c'est pas
anodin.
Et c'est pas très subtil non plus.
Non,
c'est
pas subtil du tout.
Subtil n'est pas le deuxième prénom de The Crown.
Ah, clairement.
Dit, okay.
Peter Morgan, not subtil.
Peter, not subtil Morgan.
voilà. Je sais plus ce que je
disais. Oui, donc la reine n'est pas là pour l'interview quand elle est diffusée en
et
direct.
Et donc du coup, c'est ça. Et donc
ce
le lendemain,
hyper intéressant de...
elle regarde les journaux.
Et pour moi, il y a pour le coup, il y a un vrai truc d'ancrage. Enfin, c'est con, mais c'est parce que ça fait pas si longtemps qu'on a des smartphones, mais c'est fou de se dire, t'es la reine d'Angleterre, tu sors de soirée, on te dit, il y a cette interview qui a été diffusée, et tu peux
pas
la voir.
La revoir.
Genre, on a noté, on a essayé d'enregistrer pendant, tu vois, il doit y avoir des gars avec des magnétophones tout, mais
il y avait bien des magnétoscopes à l'époque, ils ont
il y avait déjà des magnétoscopes en 97.
Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans la série, ils le sortent en mode, elle était au bal et elle revient et le lendemain matin devant les scrambled eggs, elle lit toutes les headlines des journaux qui sont en mode genre on était trois dans ce mariage et je pense pas que le prince Charles soit fait pour régner et nanina et nanana est en mode wow, c'est chaud.
Ce qui est le gros caca nerveux de Charles d'ailleurs. Ce côté,
oui, bien sûr.
Comment t'as pu dire à la presse que tu pensais pas
que j'allais être roi. Alors que littéralement depuis saison 2 ou 3, on est en mode bah bien sûr que ça. Enfin tu vois genre moi ce qu'elle dit. Alors après,
en fait, elle dit pas il serait un mauvais roi. Elle dit être roi, c'est pas ce qu'il lui faut.
Oui.
Elle dit ça l'épanouirait pas parce qu'il a envie de faire trop de trucs et il a trop d'idées et la monarchie c'est trop rigide et ça lui irait pas. Alors elle lui dit pas de façon aussi sympa, mais en fait ce qu'elle dit c'est pas ce serait un mauvais roi,
c'est pas
être
ce
roi,
lui
c'est
faut,
pas
quoi.
Pour lui. Mmh, et mais comme lui, en fait, toute
là,
la le trauma originel de sa vie, c'est de pas être autant désiré que sa mère et de jamais pouvoir être à la hauteur de sa mère et que c'est un homme assez auto-centré sur son nombril.
Ah bon?
Qui, en plus, est l'héritier d'une famille royale, donc ça n'aide pas. Bah, il est très en mode, c'est ça qui le trigger, en tout cas, dans la série.
Oui, bien sûr.
C'est genre, c'est pas comment t'as osé dire à tout le monde que je te trompais, que j'étais pas là pour toi, t'as, enfin, elle a quand même raconté, mais y compris dans le livre, qu'elle a essayé de se suicider pendant qu'elle était enceinte, qu'elle a essayé de provoquer des fausses couches en se jetant les escaliers, enfin, que la personne va mal. Et lui, ce qui le choque, c'est comment t'as pu dire que je serais pas le meilleur roi du monde, tu vois, elle est là. Ok, enfin oui. Okay,
mais alors que moi, je trouve que littéralement, c'est exactement ce que la série dit, tu vois. Et c'est ce que, enfin, tu vois, c'est toutes les saisons d'avant là avec Josh O'Connor, où en fait lui,
donc l'acteur qui jouait Charles plus jeune.
Ouais, sur les saisons d'avant, où il veut être acteur, il est hyper intéressé par 12 000 trucs et tout, et en fait. Littéralement, t'es en mode frérot, être roi, ça a l'air. Enfin,
ça va être
même lui-même,
quoi.
Il est en mode pourquoi est-ce que je devrais être roi puisque je pourrais faire du théâtre.
Ça a pas l'air de l'amuser.
Et du coup, moi, je trouve ça intéressant ce truc où il pète un câble là-dessus où je suis en mode vraiment. Alors après, j'ai le biais des séries et tout, mais ça a vraiment l'air d'être ça, tu vois. Genre, t'as pas l'air de vouloir trop être roi, ou alors d'être roi d'une autre manière comme il le fait. Enfin, tu vois, genre toute la tout l'épisode sur le new way de la monarchie où il est. Où il est là,
the
vraiment,
way forward, the way ahead, tout ça.
Où il est là, bah,
et
vraiment.
Et puis, bah, maintenant, ça... il est roi. Donc, on va voir, ça ne passe pas très longtemps, hein, vraiment. Ah, et on va voir s'il applique, du coup, une royauté un peu différente. Mais ça rentre dans ce qu'on s'est dit sur la première partie de... Donc, cette saison est, a priori, globalement considérée comme un peu en deçà d'autres saisons de The
Clairement.
Crown. Un peu, peut-être, avec un peu des longueurs. Et puis, peut-être des choses à raconter moins intéressantes. Beaucoup, en fait, très centrées sur Charles et Diana et... le sens de la royauté et du coup on perd un peu peut-être le reste des trucs intéressants de The Crown jusqu'ici et du coup il y a ce truc aussi de peut-être que c'était forcément plus bankable pour le public de suivre une jeune reine et un jeune Philippe aussi son époux qui se rebelle un peu contre les codes de la monarchie et qui sont plutôt en résistance face à en fait on me dit de faire comme ci, on me dit de faire comme ça mais moi j'y arrive pas et je pense qu'il faudrait faire différemment. Chacun à leur façon, certes, mais quand même. Et en fait, maintenant, ils ont assez vieilli. C'est un peu le dicton, genre, soit tu meurs jeune le gentil, soit tu vis assez longtemps pour devenir le vilain, vois. C'est que, ils sont rentrés dans le système. Ils deviennent non seulement acteurs, mais ils nourrissent le système, en fait. Et il y a Philippe qui le défend auprès de Diana et il y a la reine qui incarne, en fait.
Oui, c'est ça, forcément.
En fait, la reine, on l'a commencé avec une jeune reine qui est là. J'en ai marre que tout le monde me dise, on a toujours fait comme ça, faut faire comme ça. Et là, on en est au stade de sa vie où la
mais
reine, elle est là
elle
en mode,
réussi,
il faut faire comme ça, parce qu'il faut faire comme ça.
Elle a fait les petits pas qu'elle avait à faire en disant, genre, j'en ai marre qu'on me dise de faire comme ça. Et Charles fait les petits pas qu'il a à faire en disant, j'en ai marre qu'on me dise de faire comme ça.
Et à quel point elle lui facilite la vie, à quel point elle devient elle-même l'ennemi qu'elle était, enfin, l'ennemi qu'elle a eu avant. Ouais. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui est moins fun à regarder. C'est des gens qui renforcent le système.
Je pense que juste la diff.
Que des gens qui challengent le système.
La diff, c'est que elle avait plus son père. Pour lui dire genre quoi faire et tout. Alors que du coup, c'était vraiment le système monarchique, c'est-à-dire tous les gens autour, ses conseillers notamment, qui étaient en mode « non, tu peux pas faire ça mm-hmm. ». Et elle était vraiment en mode « vous êtes qui, en fait ?» Parce que littéralement...
Oui, et qui étaient tous des vieux gars oui, de ça. 128 ans, quoi, ouais. aussi.
Et du coup, moi, je pense que là, c'est d'autant plus compliqué quand, en fait, en plus, c'est ton parent, tu vois.
Oui, enfin, ça ne peut pas être ça, la monarchie de droit fil de filiation.
Avez-vous compris, car on l'a dit environ 40 fois.
Ça ne marche
mais
pas.
Mais ça ne peut pas être sain.
Avez-vous compris qu'on n'est pas ultra-monarchiste dans ce stream?
Plot twist.
Il y a Filigrane qui dit, et je suis hyper d'accord, je trouve que le premier ministre de cette saison, joué par Johnny Lee Miller, super acteur, alors déjà c'est vrai, et c'est un vrai rôle à contre-emploi pour lui, enfin à contre-emploi, en tout cas inattendu pour Johnny Lee Miller, qui est un acteur qui est plutôt connu pour des rôles de bad boy un peu fracassante, qui a notamment joué dans Trainspotting
okay.
avec Ewan McGregor à prendre de la cocaïne par tous les orifices et de l'héroïne aussi. Donc c'est vrai, c'est un peu comme si... T'avais
un mec de... jamais reconnu,
bah ouais,
mon gars.
Déjà, il est méconnaissable. Et c'est un peu comme si t'avais un mec de Jackass choc qui joue Lionel Jospin, tu vois. C'est genre, ah, mais il joue un mec ultra, tu sais, du parti conservateur.
Ah,
avec une semi-calve grisonnante et une petite femme qui lui fait des petits œufs. Enfin, un gars, a priori, certes, chef d'État du Royaume-Uni, mais plutôt bourrin sur le papier. Et en fait, c'est un acteur qui est connu pour être très, très punk. Du coup, c'est vraiment marrant de le voir dans ce rôle-là. Et aussi, dans les années 90, au moment où, du coup, The Crown, enfin, cette saison se déroule, Johnny Lee Miller était un peu une icône punk bad boy. Et du coup, le voir jouer un gars de cette époque-là, mais enfin, tu vois, c'est vraiment
comme
si un bad boy français des années 90 jouait Lionel Jospin.
Incroyable.
Tu vois, ce serait genre absurde, mais ça...
Jouer Jacques Chirac, plutôt.
Parce que je pensais, dans ma tête, Jacques Chirac, il est un peu cool. Tu vois, maintenant, il a cette aura un peu cool kid.
Oui.
Alors que Lionel Jospin, non, tu vois, c'est genre joué parce que, John Major, c'est genre, c'est pas un cool kid. Je sais pas s'il y a des t-shirts de hipster avec John Major dessus, tu vois. Peut-être après cette saison, du coup. Donc, pardon pour la parenthèse de
Johnny Miller.
Merci. Je trouve que le premier ministre de cette saison est un bon mix également des différents personnages de la famille royale, conservateur, mais qui doit vivre avec son temps, tout en étant psychologue de famille et couple moderne. Et c'est vrai, moi c'est mon perso préféré de cette saison.
Le
aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres persos qui sont pas dans la famille royale dans cette saison, mais la façon dont il les regarde tous en mode.
Si on m'avait dit
vous êtes quand même
cramaxant. Que c'était ça le travail de premier ministre.
Oui.
Quand il est justement au
bal chelou
au
là où tout le monde est en kilt et où ça inverse les rôles, pas du tout.
Ouais.
Clairement, tout le monde lui fait bien sentir que toi t'es un gueux et pas nous. Donc,
ouais. Ouais, c'est un délire.
Imaginez Mathieu Kassovitz qui joue François Hollande.
MDR. Oui.
Ouais, c'est un peu ça. En vrai, ça marche. Je prends l'allégorie.
Ah, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur lui ? Ah oui, le moment où il fait où il doit gérer le divorce de Diana et Charles et où il fait les allers-retours.
Oui, parce que du coup, il fait un peu médiateur en mode je suis un peu neutre.
Ça c'est pareil, j'ai pas checké si c'était vrai ou pas, mais je suis en mode mais vraiment quel premier ministre
va faire
ça,
tu vois. Moi, j'ai envie de croire que c'est pas vrai, tu vois, j'ai envie de croire que j'ose espérer que le gars il avait mieux à faire parce qu'il y a ça aussi, c'est que je veux bien que Charles et Diana et les problèmes que ça a posé dans la famille royale et dans les liens entre la reine Elisabeth et celui qui allait devenir a priori le roi, son héritier. Donc j'entends qu'il y a aussi bien sûr un aspect politique à tout ça. Je veux bien que ça ait fasciné le Royaume-Uni et le monde et que ça reste encore aujourd'hui un sujet symbolique et hyper fort. Mais je pense que aussi peut-être le chef d'État du Royaume-Uni dans les années 90 en pleine crise économique a mieux à foutre de sa vie que de faire des allers-retours entre Charles et Diana pour dire... toi, tu prends la Porsche, elle prend tel château. Enfin, c'est aussi ça, tu vois, c'est que le gars... En plus, on le voit vivre à Scotlandia, à Downing Street, donc dans les locaux du Premier ministre. Et alors, mon gars, c'est pas l'Élysée, Downing Street. C'est pas les dorures, le palais des... Non, j'allais dire la Galerie des Glaces, mais c'est à Versailles. C'est pas un château, quoi. C'est juste un endroit qui paye pas de mine. Et on voit à plusieurs reprises l'intérieur de Downing Street. Et ça a vraiment l'air d'être une maison relativement normale. C'est pas le luxe, quoi. Donc lui, il a pas une vie... Alors, je dis pas, il est sûrement bien payé et tout, il est Premier ministre quand même, mais il a pas une vie de faste et de gens qui t'amènent ton petit-déj au lit et de château et de machin. Donc, je pense que leur délire de qui garde quoi dans le divorce et tout, il est là, mais peut-être je m'en bats la race, tu vois. J'ai un peuple à gérer, là, mon gars.
Alors,
donc, je sais pas s'il l'a fait, mais je suis là-bas à sa place, j'aurais pas fait, parce que on s'en fout.
Esquire dit que, a priori, il aurait quand même un peu aidé. Après, je suis pas sûre qu'il ait été géré, qui donne quel argent et tout, mais que, a priori, il aurait un peu facilité tout ça.
Ok, bravo à lui pour
anyway,
son rôle de conseiller de couple. avant de finir, avant de se dire au revoir, il y a un
truc qu'on
a
parler
pas dit...
du dernier épisode SVP parce que
alors,
vraiment
oui,
il m'a vénère.
On va parler
vénère.
Du dernier épisode qui s'appelle donc Decommissioned, qui mixe la victoire de Tony Blair, joué par un acteur que je ne connais pas et que j'avoue, et c'est pas du tout une critique envers son jeu d'acteur parce qu'en plus on l'a vu très peu, mais je m'attendais à quelqu'un pour Tony Blair, tu vois. Je m'attendais à genre ça va être quelqu'un de connu parce que c'est Tony Blair, c'est un premier ministre hyper connu qui a hyper changé les États-Unis, le Royaume-Uni. Je vais y arriver un jour. Moi, il se trouve qu'en plus vu mon âge, c'est le premier ministre
ouais, pareil.
Que tu identifies, ouais. Je me souviens, qui a en plus une gueule avec ses oreilles et tout, qui a aussi marqué une vraie rupture vers le libéralisme et dont le Royaume-Uni paye encore les pots cassés aujourd'hui et yep. qui était le premier ministre pendant Once Again spoiler alert, la mort de Lady Diana. Et je pensais et qui a déjà été joué en plus au cinéma par notamment Martin Sheen. Oui. Qui est un super acteur et qui l'a joué dans The Queen de Peter Morgan, showrunner de The Crown. Et du coup, je m'attendais vraiment à un acteur plus connu ou qui a un peu plus une gueule. Okay. Et quand je l'ai vu, ouais, j'étais vraiment un peu en mode ah bon, bah c'est juste un gars. Et apparemment, c'est un acteur. C'est vraiment rien à redire sur son talent. Mais comme The Crown a quand même, ça fait partie des spécificités de la série de prendre des acteurs et actrices hyper connus. En vrai, c'est vraiment un casting royal à chaque fois, littéralement. Bah pour Tony Blair et bah du coup John Major, c'est un peu une surprise avec Johnny Lee Miller. Je m'attendais à peut-être au moins un twist ou quelque chose, mais non, c'est peut-être juste moi qui suis un culte et qui n'ai jamais entendu parler de ce cas, mais j'étais un petit peu genre oh ok, bon c'est juste un gars. Je m'attendais à une petite révélation.
Alors c'est vraiment drôle.
Salut Calu le psy.
Parce que quand tu tapes Tony Blair The Crown, qui sort en prums ton préf.
Comment évidemment
Andrew Scott
qui jouait Moriarty dans la série Sherlock.
Mais
c'est à cause de lui que mon chat s'appelle Moriarty. Qui joue dans Fleabag, le hot priest, comme on dit, et qui, du coup, a priori, aurait été approché pour le rôle de Tony Blair, mais mon rêve, et après, il lui ressemble pas du tout.
Mais non, il aurait été beaucoup trop beau pour jouer Tony Blair.
Mais il est beaucoup trop charismatique. Après, tout le monde gagne 10 points de beauté dans le
film. Ouais, mais là, vraiment, Tony Blair, il aurait gagné 150 points de charisme pour une, vraiment, la personne ne lui ressemble pas du tout, quoi.
Tout à fait.
Bref.
Donc, dans le dernier épisode, il y a la victoire de Tony Blair et le rapprochement entre Charles et Tony Blair. Le prince Charles qui semble se positionner en mode, en fait, t'es moderne, tu veux dépoussiérer le pays, guess what, moi aussi. Mm-hmm. Toujours dans cette... En fait, le dernier épisode, c'est vraiment un écho au premier épisode de la saison. Puisque il y a Charles qui, de nouveau, va voir le nouveau premier ministre pour essayer de se placer comme « Maybe je serai un meilleur roi que ma mère parce que moi, je suis plus moderne. » Donc, la même chose que dans l'épisode 1.
Ça m'a saoulé.
Il y a la reine et le Britannia, et de nouveau, la gnote vie, machin.
Chiant.
Par contre, il y a la fin de Hong Kong en tant que colonie britannique, et le début de l'indépendance de Hong Kong, mais aussi le rattachement à la Chine. Donc c'est compliqué en vrai comme sujet,
oui.
la libération de Hong Kong des colonies britanniques, et j'ai trouvé ça pas hyper intéressant, comme c'était raconté. Enfin, j'ai l'impression que c'était... le jour où Charles a été sous la pluie et pas le jour où Hong Kong a arrêté d'être une colonie britannique.
Non mais attends, est-ce que tu te souviens quand même, moi j'ai trouvé ça indécent. Vraiment moi cet épisode m'a énervé en tout point. C'est-à-dire que vraiment j'étais en mode vraiment la redite de l'épisode 1 avec Charles qui refait exactement la même scène avec le premier ministre d'après avec la reine qui est encore en mode vous êtes sûr que vous allez pas réparer mon bateau parce qu'il est vraiment super, j'étais là.
Oui,
c'est bon, on a compris en fait,
super.
Putain. Et après le truc de « Oh tiens, regardez, c'est la fin d'une des colonies britanniques, on va vraiment passer une main dessus comme ça en disant « Oh regardez, il a plu ». Et t'as la conversation entre Tony Blair...
quatre personnes chinoises maximum, je pense.
Ouais.
Ou hongkongaises.
Et la discussion entre Tony Blair et le prince Charles après, où vraiment le prince Charles est en mode « Ouin ouin, regarde Hong Kong, t'as vu comment ils nous remplacent, j'ai récupéré le drapeau » et eux ils étaient là après avec leur drapeau et tout.
Ils voulaient pas être dans notre pays à la base quand on les a colonisés.
Et vraiment, ça pour le coup, moi c'est un truc qui me vénère, de « To the crown », je suis en mode « Vraiment, à aucun moment vous voulez parler de la colonisation ?» C'est vraiment genre,
ouais,
quand on en parle,
un truc qui est...
c'est vraiment un revers de main, on s'en bat les couilles. Et là, vraiment, écrire ça en mode « Oh là là, ouin ouin, ils veulent pas de nous dans leur pays », j'étais vraiment en mode « Mes frères ?» Enfin genre, à quel point vous avez aucune honte d'écrire ça ? Enfin genre vraiment, vous avez été plusieurs à relire ce script. Et
après...
Enfin genre et on parle de Hong Kong qui
est pas
là.
On pourrait aussi se dire bah c'est comme ça que la famille royale voit pas tu vois c'est pas comme ça
non,
que
mais bien
ces
sûr.
Pays doivent être vus mais c'est comme ça que la famille royale
moi, ça
les
m'a
voit.
Trop énervé.
Mais c'est vrai que la série elle nous montre pas d'autres facettes. La série elle aurait pu nous montrer peut-être plutôt qu'un énième bail de Philippe et des calèches ou autre chose. Je sais pas comment une personne random de Hong Kong le vit tu vois genre quelqu'un qui vit dans la vraie vie ou peut-être en fait montrer cette décolonisation du point de vue de d'un dirigeant hongkongais qui lui fait le geste d'enlever le drapeau britannique et de hisser le drapeau chinois ou hongkongais, je ne sais pas exactement, mais en tout cas de reprendre une forme d'indépendance, oui, d'indépendance, ouais, et de, ouais, pouvoir, d'agency, c'est le mot anglais que j'ai en tête mais j'ai pas la traduction, mmh, du coup, sur son pays. Mais non, c'est Charles qui est là, il pleut et on lui a dit que texto, c'est humiliant pour un monarque de se rendre à la cérémonie d'indépendance, ouais, d'une de ses anciennes colonies. Du coup, Charles, tu t'en charges, ouais, et t'es là.
Et tu vas voyager en seconde classe et t'auras bien le seum.
Finalement.
Non, tu vas voyager en business au lieu de voyager en première classe. J'espère que ça ne te dérangera pas. Et t'es vraiment en mode...
Ouais,
bon, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais vraiment en mode, c'est vraiment donc le premier épisode à nouveau. C'est-à-dire que, tu voyages en business. Les gens de pseudo-gauche qui ont été élus, ils sont... Enfin, genre... Vraiment, ça m'a saoulé de ouf.
Ouais, et encore une fois, bah après il y a Sacha sur le chat qui dit c'est le discours le plus célèbre de Charles, je crois, c'est le seul que je connais en tout cas, mais même simplement pour le personnage, ça ne raconte pas grand-chose. Donc peut-être aussi que vrai c'est un moment qui a marqué l'histoire et que du coup autant le raconter et que nous on a peut-être pas trop la ref, mais peut-être que c'était un
peut-être
truc.
Et surtout
que ça a marqué un truc dans la fin du Commonwealth, peut-être que c'était un peu une des dernières
surtout qu'il y a aussi un moment donné où
c'est hyper récent quoi, c'est 96, tu te rends
97.
Compte? Non, je sais que, alors, c'est 97 dans l'épisode que, c'est dans 97 que Tony Blair devient Premier ministre, mais dites-moi si je me trompe. Anecdote, cerveau de Mimi. Il me semble que l'indépendance de Hong Kong, c'est en 96, parce que il y a un réalisateur hongkongais très connu qui s'appelle Wong Kar-wai, qui fait des films magnifiques, comme In the Mood for Love, le plus beau film d'amour que vous verrez dans votre vie. Regardez-le, et ça donne grave envie de manger des nouilles en plus. Et ce réel-là, il a fait une forme de suite à In the Mood for Love qui s'appelle 2046. Et que moi, j'ai étudié au lycée, parce qu'au lycée, j'ai fait option cinéma, et il était au programme du bac cinéma. Et, ce qu'on nous a expliqué, c'est que le film s'appelle 2046 parce que, quand Hong Kong est devenue du coup indépendante du Royaume-Uni.
Rétrocédée en 97 à la Chine.
C'était en 97, putain.
Sorry.
Ok, du coup, je sais pas. Ah, bah, du coup, c'est la dernière année, donc ça marche quand même. Mais en gros, il y avait un truc de... Il y a un deal où, pendant 50 ans, la Chine ne peut pas ingérer trop dans la vie hongkongaise. Parce que, en fait, Hong Kong, si je me rappelle bien, vous voulez plus être britannique, évidemment, mais vous voulez pas spécialement être chinoise. Ils
non, bien
là
sûr.
Parce que du coup, bah, ils avaient grandi extrêmement différemment de la Chine communiste. Ils avaient pas la même histoire, ils avaient pas la même économie. Mmh. Et on voit que, enfin, Hong Kong, on a cette image hyper futuriste, hyper développée à la pointe et tout, ce qui était pas le cas de beaucoup de la, enfin, ce qui était moins le cas en Chine. Et puis, ben, le parti communiste, quoi. Enfin, le parti dirigeant de Chine, c'est quand même une zumba en termes de liberté, par exemple, humaine. Donc Hong Kong était là, merci le Royaume-Uni cordialement, au revoir, mais on n'a pas hyper envie de rentrer sous la tutelle chinoise. Et du coup, il y a eu un deal de, pendant 50 ans, il n'y a pas d'ingérence chinoise trop forte, en tout cas, il y a des limites fortes qu'ils peuvent faire. Et du coup, la deadline, c'est 2046, c'est la dernière année où...
J'ai regardé un peu les bails de Hong Kong, parce que du coup, comme moi, ça m'a vénère les histoires de colonies, machin, nan, j'étais, ok, je vais regarder l'histoire un peu de Hong Kong, comment ça s'est passé la colonisation, machin, nan. Bon, ça s'est passé comme toute colonisation avec de la guerre. Et donc, tuer des gens. Et surtout, genre, t'as l'impression que Hong Kong, c'est une salle à sous-louer, en fait. Enfin, genre, vraiment.
Ouais, c'est genre un détail,
c'est genre la
passe,
Chine,
comme ça, comme si.
Ils ont vraiment fait signer un bail au Royaume-Uni.
C'est assez
mode
sur le chat, c'est vraiment des bails.
On vous a cédé Hong Kong pendant 99 ans. Et après, c'est refill pour 99 années après, tu vois.
Ah oui, c'est vraiment, c'est un studio, quoi. C'est...
Et du coup, c'est pareil pour les... Enfin, voilà, c'est ça. C'est genre, bon, bah, vous avez 50 ans solo. Peut-être qu'on pourra re-signer un truc de 50 ans à nouveau, mais on n'est pas sûr encore.
On vous rappelle.
Genre, vraiment,
peut-être qu'on va reprendre, finalement, dans 50 ans, quoi.
C'est bizarre. Enfin, genre, vraiment, il y a un truc trop bizarre, tu vois, genre... Et ouais, donc moi, ça m'a mis en colère, ce moment où Charles, il dit genre, ouais, ils sont prêts à enlever la couronne, machin, nan, j'étais en mode, Et en plus, je sais plus, enfin, genre vraiment, la manière dont il le dit, il était là, genre, parce qu'on est pas assez moderne, c'est là, non, parce que vous avez colonisé littéralement cet endroit, en fait. Enfin, genre, c'est pas parce que vous êtes pas assez moderne que Hong Kong ne...
Du recul sur ce que le système que tu représentes a fait subir au monde.
Insupportable.
Et clairement, c'est pas une thématique très explorée dans The Crown. Après, moi, j'avoue, des fois, en termes de pop culture, je suis un peu en mode, si tu sais pas faire, c'est pas grave, le fais pas. Il vaut mieux pas le faire que le faire.
Oui, ça, j'entends.
Genre, je trouve que Christopher Nolan, réalisateur, entre autres, de Interstellar, Tenet, voilà, plein de films, ne sait pas écrire des personnages féminins. Genre, Inception avec la toupie, tout à fait. Il ne sait pas écrire des personnages féminins intéressants, il y arrive pas, il y en aura très rarement dans ses films. Et du coup, quand il fait des films avec zéro personnage féminin, comme Dunkerque, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et où il n'y a pas de personnage féminin, je suis là, c'est trop bien. Parce qu'en fait, il vaut mieux pas le faire que mal le faire. évidemment, j'aimerais que idéalement, ils s'entourent de gens qui savent le faire éventuellement, genre
peut-être
des femmes
t'as
par
les moyens
exemple,
d'acheter des scénaristes.
Parce qu'ils trouveraient ça important d'avoir des personnages féminins bien écrits et ils seraient là, bah, c'est une compétence que je n'ai pas, je vais payer quelqu'un pour le faire car c'est important.
Eh oui.
On n'en est pas encore là. Mais du coup, je suis là, tu sais quoi, quitte à mal le faire, le fais pas. Je préfère un film avec pas de personnage féminin qu'un film avec un personnage féminin éclaté.
Ouais, ouais.
Et je sais pas si Peter Morgan et The Crown en général peut bien parler de la colonisation, de
bah,
ce que ça
a fait
pour les personnes racisées. Ils l'ont fait un tout petit peu avec le flashback sur la jeunesse de Mohamed Al-Fayed et cette idée de « moi je méprise les gens qui voient les Britanniques comme des dieux ». Bah oui, mais d'un autre côté, les Britanniques, c'est eux qui gèrent, tu vois. Donc il y avait cette idée quand même de micro-point de vue
vraiment
de qu'est-ce que ça fait d'être le peuple colonisé. Et je suis là, maybe s'ils essayaient de faire
c'est
plus, ce
max,
serait très vite genre
cringe.
Pas très bien fait. Et d'un autre côté... Bah en fait ils ont qu'à s'entourer de gens qui savent écrire
ces histoires-là. Mais c'est ça en fait pour moi c'est ça.
Raconter.
Je suis vraiment en mode vous êtes fucking Netflix et vous êtes probablement un des shows qui coûte le plus d'argent à Netflix donc vraiment je pense que vous pouvez vous permettre 2-3 scénaristes qui savent de quoi ils parlent tu vois.
Yes, embaucher et payer des gens qui ont les compétences tout à
fait. Au hasard.
Oui.
Voilà. Et sur le dernier épisode, autre truc qui m'a giga maxi saoulé.
le vibrateur.
J'en peux plus. Est-ce qu'on peut parler de cette scène où Charles va chez Diana pour manger des scrambled eggs.
T'as pas aimé?
Et mais qui y croit en fait?
Alors je sais pas s'ils ont mangé des scrambled eggs, mais après
mais à
0%. Je sais pas si j'y crois, mais en fait je regarde jamais The Crown en me disant, tu vois, je suis pas comme toi, genre je vais pas sur Wikipédia juste après, je regarde pas en me disant.
Non mais attends.
Est-ce que c'est vraiment arrivé? Je me dis. En
mais
fait, je crois à la dynamique de cette scène.
Ah,
je crois à
moi.
Cette discussion. En fait, c'est pour moi c'est pour le coup. Donc l'épisode, ça c'est l'épisode 10, et l'épisode 9, juste avant, c'est couple 31, donc c'est leur divorce. Et cette thématique de, en fait, vous êtes juste des gens et vous traversez un truc que plein de gens traversent parce que vous êtes juste des personnes. Et du coup, cette discussion un peu autour de brouiller un peu naze qui commence comme une tentative de réconciliation et de peut-être qu'on a une suite où on peut être au moins amis, tu vois, on peut être au moins potes, et qui en fait... au bout de 3 bouchées se transforme en mesquinerie de en fait ils ont encore des ils arrivent pas à régler leur bail, ils arrivent pas à se parler. Je suis là, c'est hyper réaliste, tu vois, pour le coup c'est moi je crois à l'énergie de cette conversation. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? Est-ce que ça a eu des ébrouillés? Je sais pas, mais j'étais en mode ah, tu vois, même en sachant comment ça finit pour eux, j'étais là c'est l'occasion, j'espère un peu qu'ils vont arrêter d'être cons en fait et se réconcilier, pas en tant que couple mais en tant qu'humain à ce moment-là. Et arrêter d'être les rouages d'un système et d'être victime de leur propre trauma et juste se parler comme à des personnes et se faire du bien. Et j'étais là, c'est un peu le moment où c'était la dernière bretelle de sortie, tu vois, où maybe ça aurait pu finir autrement et finalement non. Donc moi j'ai un peu bien aimé cette scène. J'ai trouvé mieux.
Alors moi je vois Sacha dire, j'ai trouvé cette scène assez cliché et je suis assez d'accord avec toi.
Ouais, c'est pas subtil,
vraiment
cette
mode.
Saison. Hein. The Crown, les plus...
Stop quoi, genre les deux noblios qui se font des scrambled eggs parce qu'ils savent pas faire une omelette. Enfin tu sais, genre vraiment j'étais en mode waouh, ah ouais d'accord, on en est là. Et après du coup, alors je parlais tout à l'heure de ma fameuse vidéo où j'ai regardé
c'est dans l'air.
Les bails de décoration de The Crown et tout. Et en fait, il y a un moment donné où il parle du fait que normalement à la fin de cette scène, Diana était censée jeter une assiette à la porte.
Ah non,
en
mais non.
Mode éclater l'assiette,
c'est
machin.
Vraiment, personne fait ça dans la vraie
et
vie.
Et littéralement,
cliché,
elle
quoi.
L'a pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que l'assiette était en espèce de plastique, machin, qu'elle aurait pas explosé comme une assiette en céramique. Et du coup, ils ont
oui,
pas
comme
fait
les
ça.
Vraies femmes de la vraie vie qui lancent des assiettes.
Et j'étais là, enfin, vraiment, heureusement qu'il y avait pas ça.
Personne le fait. Je dis que c'est pas fait aussi souvent que la fiction voudrait nous faire croire, quoi.
Et du coup, j'étais là, heureusement qu'ils ont pas fait ça, parce que vraiment, ça aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'aurais eu tellement le seum sur
oui,
cette, toute
cette scène.
Il y a
quelqu'un sur le chat qui disait la scène de comédie romantique.
Mais exactement. Et en fait, moi, j'étais
non, j'entends. J'entends.
Mais vous rigolez. Enfin,
non, j'ai pas. Oui, j'entends.
En fait,
je trouve pas
pour
qu'elle
moi,
est subtile, cette scène.
On a ni besoin de ce truc-là. En fait, pour moi, cette scène, le fin mot de l'histoire de cette scène, c'est en fait, Charles, il regrette pas du tout d'avoir choisi Camilla et Diana est seule. Le saviez-vous? Oui. Du coup,
oui.
Pourquoi faire 10 minutes sur eux qui s'engueulent, tu vois, genre? Et vraiment, il avait pas besoin... Enfin, tu vois, genre, il y a un espèce de truc où il arrive en mode « Ah, oh, tout mielleux, là, de genre « Oh, je m'en vais un peu,
oui,
en fait. »
Oui, petit regard par en dessous, machin.
Ah, peut-être que... Et
Dominique
là,
West,
oh,
il s'est levé, il a taffé ce jour-là, quoi. Il a activé le charme. Et oui, enfin, en fait, je suis là... Si la saison avait été super, si l'épisode avait été super, Cette scène, elle y a sa place, moi je trouve, mais on est quand même dans une forme de ventre mou, alors que c'est le dernier épisode de la saison, donc c'est pas le moment d'avoir un ventre mou.
Non.
Et on a bouclé en fait le truc de leur divorce, on a bouclé cet arc-là.
Oui, c'est ça, et c'est pour ça que moi j'ai pas compris cette scène.
Et du coup, est-ce qu'on a besoin de passer du temps là-dessus ? Et alors attends, oui. Moi je croyais que la mort de Diana c'était dans cette saison. Je non. sais pas pourquoi, je sais, dans ma tête c'était la saison sur Diana. Aussi, je suis pas au clair dans ma tête sur la temporalité, genre où on en est dans The Crown. Est-ce que tu
ah
vois,
bah
je...
là littéralement dans.
Enfin maintenant je le suis, mais je veux dire.
Elle décède. Dans
ok,
la
bah
série,
tu vois
quoi.
Ça par exemple, je savais pas. Tu m'aurais dit il y a encore 4 ans avant qu'elle décède, j'aurais dit ok.
Je crois qu'elle meurt en 97.
Je vais pas trop lire Wikipédia aussi pour pas me spoiler la vraie
je
vie.
T'aime trop.
Mais non, mais comme ça je découvre quoi. J'ai un peu la surprise de la série et après je vais vérifier. Mais du coup, moi j'étais persuadée que c'était dans cette saison la mort de Diana et en fait non. Et du coup, je pense que je m'attends. Alors peut-être que pour moi c'était encore plus ce côté pétard mouillé de la fin de saison. Ou à mi-épisode, j'étais là, du coup, elle va pas mourir à cet épisode-là, parce que vraiment, là, il reste que 20 minutes. Je pense qu'ils vont accorder plus que 20 minutes. Ou alors, j'étais peut-être en mode, est-ce que ça va être un cold finish, tu vois? Genre, la
oui.
fin, c'est juste
ils
l'accident
dans
de voiture
où
ils entrent dans le tunnel.
Ouais,
et il y a un bruit et c'est fini. Et j'étais là, c'est quand même ultra dark comme fin de saison, quoi. C'est assez dur. Et au final, non, pas du tout. Ce sera la saison prochaine, probablement du coup au début de la saison. Si
ouais, parce que
déjà tout le monde l'attend et parce que on n'est pas loin temporellement.
Oui, c'est ça. Temporellement, on est vraiment pas loin. Je crois que vraiment, c'est quelques mois plus tard la mort de Diana.
Ok, donc a priori, on n'est pas loin. Mais moi, j'avoue que j'attendais un peu ça et du coup, j'ai compris qu'il y aurait pas. Après, c'est ma faute entre guillemets. Genre, je me suis pas renseignée. J'avais déduit ça dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Et du coup, il y a pas ça. Et du coup, peut-être j'attendais. Un autre moment fort, quelque chose qui clôturerait cette saison avec un peu go out with a bang, tu vois. Mmh. Et au final, ouais, je trouve que c'est quelqu'un disait pétard mouillé, c'est un peu ça.
Je sais même plus comment ça finit du coup.
Je sais plus c'est quoi le dernier plan. Ah, je l'ai pas noté. Je sais plus. Mais je pense que c'est.
Bah,
alors
ça,
que vraiment, on l'a regardé quand
résume.
C'est sorti, donc il y a une semaine. Quoi.
Littéralement, moi j'ai regardé le dernier épisode il y a 2 jours.
Ouais. Donc après bon c'est on se souvient bien on a quand même fait 2 lives de 2h30 chacun sur la saison 5 de The Crown mais est-ce qu'on peut dire que l'un dans l'autre c'est pas notre saison préférée?
Bah clairement
on s'est un peu
franchement globalement déçu
peut-être.
En fait le truc c'est que tu vois genre la dernière fois on parlait un peu de tu vois l'épisode 3 en fait il y a des épisodes qui sont cool, il y a des moments cool tu vois genre moi tu me mets le truc Peter Townsend Margaret, je suis en mode ok c'est mime c'est tout, mais juste dans l'ensemble global de la saison t'es en mode on s'en bat les couilles mais
ouais surtout
c'est
genre un peu en rond quoi.
Ouais,
il y
c'est
a un
ça,
peu ce
c'est
truc
genre...
de ok on a les mêmes conversations
ça fait 8 fois
change,
qu'on a compris
et...
tu vois
et je pense qu'on en revient à si on avait l'impression que c'était le propos que justement le propos c'est la monarchie est incapable de changer, la monarchie est dans son jus, la monarchie est incapable de prendre la mesure de c'est quoi la réalité du peuple par rapport à la sienne, si jamais c'était montré de façon plus critique, en fait, peut-être l'amour d'Elisabeth envers son fucking yacht, tu vois, et qu'il y avait un parti pris un peu plus clair, bah, ce serait moins montré comme, ça donnerait moins l'impression d'être une redite, et plus l'impression d'être, il insiste sur son propos, tu vois, il nous a dit, la série, elle dit que la monarchie c'est pas bien, et du coup, il est en train de nous rappeler que la monarchie c'est pas bien. Mais comme la série a choisi de ne pas dire si c'est bien ou pas, et d'essayer de montrer de raconter la légende, on va dire, de la reine Elisabeth, parce que c'est pas la vraie reine Elisabeth. Bah, du coup, c'est un peu genre, ok, quand tu nous montres plusieurs fois la même chose, ça nous dit juste que la personne n'évolue pas. Et dans la vraie vie, les gens n'évoluent pas. Des fois, ils tournent en rond. Et c'est ok. Mais dans une série, les personnages, il faut qu'ils avancent.
Oui, c'est ça.
Il y a un arc qui se passe, quoi.
Et c'est dans le podcast, là, de tes deux prefs, le Prestige TV podcast, c'est ça?
Yay!
Et ben justement, elles en parlent au tout début de saison. Elles en parlent en disant on n'est pas sûr que Peter Morgan sache vraiment quel est le propos de sa série.
Oui, qu'est-ce que ça dit sur la monarchie,
tu vois,
The Crown.
À part de dire que il est passionné
par cette
monarchie, par la figure de la reine, par la figure du reste de la famille royale et tout. À part dire que il est fasciné par ça, est-ce qu'il y a vraiment un propos critique ou, enfin, tu vois, genre critique ou validant de la monarchie derrière, tu vois? Moi,
oui,
ce que je lis en tant que meuf qui est pas pro-monarchie, c'est genre, ça rend tous les gens fous, peut-être on arrête.
Oui, oui.
Et toute manière, enfin, en fait, je veux dire,
je pense qu'il y a
même
aussi
si
des
t'étais pro-monarchie,
qui...
vu les années 90 de la monarchie anglaise, tu peux pas vraiment dire genre, franchement, c'est super la monarchie, n'hésitez pas, tu vois.
Bah non, mais d'un côté, guess what, ils ont toujours un roi.
Non, mais bien sûr.
Et aussi, je pense que quand t'es pro-monarchie, ou en tout cas plus positif que nous envers la monarchie, peut-être tu regardes ça aussi en plus en empathie avec la reine, envers, bah, vous voyez bien que c'est une position impossible, que c'est aussi elle qui tient les caps, là où tout le monde veut la faire changer d'avis, elle est là, bah, non, moi,
c'est une position impossible, je suis en mode, oui, donc.
Oui, bah, parce que, mais je pense aussi parce que nous, on est là en mode, rien dans cette position ne justifie le mal que ça fait aux gens,
oui,
qui, que ça entoure, tu vois. Et je, peut-être qu'il y a des gens qui disent, bah non, cette position, elle est assez importante pour que des gens souffrant ce nom-là, ou en tout cas des gens aient une vie plus compliquée. Ouais. Et après, encore une fois, on parle de gens qui vivent dans 1000 châteaux différents et tout.
Oui,
mais en fait, enfin, pour moi, quand t'es une meuf enceinte qui se jette dans les escaliers, on s'en fout que ce soit les escaliers en marbre d'un château. C'est juste, ta vie, elle est nulle, quoi. C'est, t'es pas heureuse. Donc, c'est bien de dire, ouais, mais c'est des gens hyper privilégiés et tout, mais quand même, c'est des gens qui vont très mal. Ouais.
Et d'ailleurs, on en a pas parlé au moment de l'épisode Elisabeth et Penny, où elle discute des Romanov et tout, et où Penny sort son truc de ces femmes c'est détesté, et j'étais vraiment en mode ah bon, genre c'est vraiment facile comme raccourci, et où la reine elle dit non mais Queen Mary ne les a pas sauvés, mais elle était triste quand ils sont morts, et j'étais vraiment en mode yes, donc toi t'étais triste et eux ils sont décédés, donc tu sais genre il y a un
niveau
de
d'échelle,
truc de tu sais genre ouais on comprend Queen Mary parce qu'elle était triste,
le deux est plus grave que l'autre, quoi.
En mode ben non, vous n'avez pas compris l'humanité des gens, en fait, peu importe que ça soit des tsars et qu'on soit pas content de ce qu'ils aient fait, et de, enfin tu vois genre
et
tout
nous,
autant
on a vu en plus la violence pour le coup de ce qui leur est arrivé, quoi, donc il y a eu un choix quand même de montrer ça, quoi.
Et tout autant que il y a plein de trucs que je cautionne pas dans la famille royale, dans la colonisation, dans le fait que tu vois genre là tout ce dont on parlait sur le fait que vraiment la manière dont c'est abordé dans The Crown, moi je trouve ça chiant de ouf car ce n'est globalement pas abordé, et ben en fait ça n'empêche que je me dis pas ces gens devraient mourir,
bah non.
Je voudrais les tuer, tu vois, genre.
Bah non, c'est
okay,
plutôt, bah, j'aimerais que vous soyez libre, en fait. J'aimerais que ça s'arrête, ce système éclaté, et que Charles puisse faire ce qu'il veut de sa vie et se marier avec Camilla s'il veut, quoi. Alors.
Ce qu'il a fini par
faire. Il y a Mintara qui dit, est-ce que vous vous souvenez pourquoi Charles n'avait pas eu le droit de se marier avec Camilla? Il me semble, mais on va vérifier quand même en direct. Moi, du coup, ce que j'ai en tête, c'est que Charles n'a pas eu le droit de se marier avec Camilla parce qu'elle était pas vierge. Il me semble que c'était ça le bail.
Quoi?
Je crois que c'était ça le bail.
Mais elle était pas déjà mariée, surtout?
Bah si, mais du coup c'est ça aussi. Tu vois, c'est qu'elle est, c'est pas qu'elle est.
Mais il pouvait pas. Non, mais
elle
attendez.
Peut divorcer.
Mais non.
Il peut se marier avec elle.
Mais non. Rappelle-toi que quand même la dernière personne qui a abdiqué du trône.
Oui, non,
c'était
je sais.
Parce
c'est
que...
pour se mettre avec une meuf divorcée.
Oui.
Ça, je sais. Mais on est. Il me semble que justement l'idée c'est. Attends. Il me semblait qu'il y avait pas que ça. Mais Loulou, vérifie. C'est possible que j'ai dit une dingue. C'est pas impossible. Ça peut arriver à des gens très bien, quoi. Elle était pas mariée quand elle fricotait avec Charles. À l'excellent jeu de mots, mais déjà, merci pour le prime, merci pour le deuxième mois de sub, et incroyable hâte à l'excellent jeu de mots, waouh, j'ai envie de le garder toute ma vie. Elle avait déjà une réputation spéciale, et son mari de l'époque lui tournait déjà autour, mais du coup, ils étaient peut-être pas mariés. Ça fait écho toutes les fois où elle a fait souffrir un membre de la famille pour protéger la monarchie. Elle était pas mariée quand elle fricotait avec Charles. Donc, elle était pas mariée. Donc.
Attends.
On vérifie. On est en fact-checking, la mif.
Ok, donc, alors, selon une première source qui est ABC News.
Ok.
Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mariés il y a 35 ans? Réponse, the big reason Prince Charles and Camilla Shand didn't get married in the early 70s, he never asked her. Il lui aurait jamais demandé, il n'aurait jamais demandé en mariage.
Ok.
Et après, il a été à la Navy. Et entre-temps, eh bien, il y avait ce cher Andrew Packable qui a un jour demandé et elle a dit oui.
Okay.
Mais ça me paraît un peu easy.
Ouais, il me semble que c'est quand même pratique de dire il lui a jamais demandé. Peut-être qu'il lui a... Mais du coup, pourquoi il lui a jamais demandé? I don't know. Ok. On est en train de chercher en direct la
NIF. RD.com.
Moi, je suis sur independent.co.uk. Parce que j'ai vu .uk et je me suis dit ah cool, ça, c'est britannique. Alors. Oh non, paywall. Incroyable. N'hésitez pas à payer la presse, la MIF, mais là, j'ai pas le temps de m'inscrire à The Independent, là, tout de suite. Car
ok,
je suis
for one
avec...
thing, she was perceived as an experienced woman.
Experienced woman,
ouais,
ça veut dire elle est pas vierge. Sorry.
Donc, c'était pas un bon truc. Et le deuxième truc, c'est qu'elle est, elle était pas aristocratic enough.
Ouais, elle était pas assez noble aussi. Ok. Eh bien, écoutez, j'avais pas 100% tort. C'était
tout à fait
la fascination pour la virginité féminine.
Moi, je pensais vraiment qu'elle était déjà mariée. Du coup, je suis perdue sur le.
Elle est bonne pour dépuceler, mais pas plus. Un petit peu.
Ah, il en fait.
Alright. Écoute, du coup, bilan de cette saison.
Bif bof. Il y a eu des bons épisodes. Des trucs intéressants.
7 sur 10.
Ah ouais, moi, je serais plus sur un 5.
5. Ok, 5.
Je leur mets la moyenne parce qu'il y a des trucs intéressants, mais il y a globalement des trucs qui m'ont vraiment. Un peu sous. Vraiment, le dernier épisode, j'étais énervée en sortant de l'épisode.
Et c'est dommage pour une fin de saison qui, en plus, normalement, c'est censé être la fin de saison où t'en sors en disant j'ai trop hâte de la suite parce qu'il y a Tony Blair qui devient Premier ministre et tu sais que. Et quelqu'un l'a rappelé dans le chat que bah, la mort de Diana ne va pas tarder. Et quelqu'un a dit dans le chat, en gros, elle est morte juste après ses vacances
à Saint-Tropez. Oui, il me semble qu'elle est décédée
dans le dernier épisode,
en septembre.
Ouais, mais Del Fayette l'invite à Saint-Tropez. Donc on est tout près, quoi. Donc t'es censé en sortir en disant c'est le. Tu vois, c'est l'ambiance toute électrique juste avant que l'orage pète. Et en fait, on en sort un peu frustré de, OK, on tourne en, justement, on n'est pas en mode, on a hâte de voir la suite. On est en mode, d'accord,
ouais,
mais pourquoi vous nous redites les mêmes trucs il y a 10 heures à l'épisode 1? Et c'est OK d'avoir des thèmes qui se répètent et de revenir dessus et tout. Mais peut-être que cette saison s'était fait, bah, peut-être un peu avec des gros sabots.
Ouais, j'ai trouvé ça, ouais, c'est ça, c'est que j'ai trouvé ça quand même, enfin, tu vois, genre, les métaphores sur le Britannia et tout, c'est vraiment,
enfin, bon, encore une fois, avoir la reine qui dit donc, sa télé aussi, c'est une métaphore,
ouais,
c'est genre,
c'est chaud,
ça stop. Pas très subtil.
Après, voilà, des très bons acteurs et il y a vraiment des très bons moments, enfin, encore une fois, tu vois, genre, moi, je trouve que l'épisode 3, il est chambé, même si, il sort de nulle part, en fait, dans cette saison, tu vois,
ouais, il est un peu
dommage.
À part, quoi. Mais comme, bah, du coup, ma partie préférée, c'est celle sur les Romanov et la Russie,
oui.
Et c'est pas vraiment représentatif de cette saison 5, quoi.
Tu vois, ouais.
Après, ça a toujours aussi été la force de The Crown d'avoir des fulgurances qui nous emmènent ailleurs ou
oui,
dans des
ça,
autres temporalités.
En général,
qui,
mais tu sais, c'est
des
un peu.
Pastilles un peu inoubliables.
Ouais, c'est
quoi.
Ça, mais c'est comme, pour moi, c'est comme les séries policières, il y a une enquête à chaque fois et tu continues à suivre les mêmes personnages un peu, tu vois.
Oui.
Et ben, là, c'est un peu pareil. En vrai, dans chaque épisode, il y a un nouvel événement, tu suis des nouveaux trucs et tout.
Bah, généralement.
Exactement.
Des nouveaux nananas.
Mais du coup, là, j'ai trouvé que les événements étaient pas forcément toujours à la hauteur ou alors pas mis en avant à la hauteur qui. Enfin, tu vois, genre, typiquement pour Hong Kong, je suis en mode, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir
ouais,
une
les
fin de
mondiaux.
Colonie pour votre pays. C'est quand même
et
un
même
truc de
pour
ouf.
Charles, en tant que futur roi, qui
y
trouve pas
trop
sa place
trucs,
et en quelle
vois.
Personne. Même juste peut-être le voir mieux se préparer à ce discours, à la limite, ouais. Tu vois, sans dire, il faudrait montrer le point de vue des gens qui habitent à Hong Kong, mais juste du point de vue de Charles et de ce que la série veut en dire du côté
ouais.
Monarchique, bah, y avait moyen
y avait
de
des
faire
trucs,
plus,
ouais. Alors que juste là, il a refait un discours avec Tony Blair, quoi.
Oui. Et après, il pleuvait.
Ah, c'était pénible. Voilà, donc globalement, moi, je suis frustrée de cette saison. Et du coup, je suis un peu dégoûtée de faire un débrief de cette saison 5. Parce que je suis en mode, putain, les autres saisons, on aurait passé 8 heures.
Mais c'est pas grave, il y aura d'autres saisons de The
oui.
Crown. Attends, on va débriefer ensemble la mort de Lady Di, du coup.
T'imagines,
je pense qu'on, pour le coup...
Trop d'empathie. Ah
peut-être
oui,
qu'on fera un live tweet juste sur l'épisode de la mort de Diana. Parce que... Il risque d'y avoir des choses à en dire, non seulement de comment l'épisode sera mis en scène, et de c'est quoi la réception critique et publique aussi qui en sera faite, parce que on est aussi là, on est aussi allé à une The Crown arrive à une période dont la plupart des gens actuellement vivants qui regardent The Crown se souviennent, sont assez âgés pour s'en souvenir. Du coup,
oui,
on peut aussi beaucoup
surtout...
plus, on est plus nombreux et nombreuses à confronter nos souvenirs à ce qu'on voit,
ouais,
là
ouais.
Où, bah, dans les années 60-70, clairement.
Et surtout,
moi,
là, je sais
pas
comment ils vont faire pour la prochaine saison, parce que littéralement, Peter Morgan, il a dit, il fait pas 20 ans. Avant et que en
bah,
vrai
coup, la
ça s'arrête
c'est
en
2002, en
2002 là.
Ouais. Bah, je pense.
Il y a 5 ans.
En vrai, a priori, The Crown 6 saisons quoi.
Ouais, ouais.
Sauf si ils reviennent plus tard pour raconter
ouais,
quelque
ouais,
chose.
Je vois.
Mais je pense qu'on est sur saison 6 et finale s'il suit sa propre règle. Et puis je pense qu'il y a des moments où tu commences à te mettre dans des sauces de diffamation, de machin,
ah,
beaucoup
ouais, ouais.
plus sérieuses. Quand tous les gens dont tu racontes l'histoire sont vivants et peuvent dire c'est faux. Et tu vois, rien que inventer. Le prince Charles à l'épisode 1 qui va voir John Major pour essayer de
ouais.
se placer et dire limite tu veux pas on renverse Madaron tranquillement et John Major qui dit mais pas du tout c'est jamais arrivé je suis tu vois on
ouais,
était quand même en
sûr.
Mode c'est une dingue d'inventer ça
ouais.
et c'est pas plus mal du coup de rappeler aux gens que c'est pas vrai parce que je sais pas à quel point tu te rends compte que non seulement on sait pas ce qu'ils se sont dit mais que juste cette interaction a jamais eu lieu en fait
mm-hmm.
donc ça met il y a aussi je pense que Netflix est là On a des bons avocats, mais calme-toi, mais calme-toi. On va pas raconter ce qui est juste.
Par contre, en parlant de Zumba et de trucs, alors bon, pour le coup, ça va faire très people et tout, mais donc, en écoutant le Prestige TV podcast, j'ai entendu les meufs dire, par contre, il y a le prince Harry qui veut sortir ses mémoires et tout, et je suis en mode, oh my fucking god, le prince Harry qui sort ses mémoires.
Prince Harry qui est marié avec Meghan Markle et, en gros, il a renoncé, il me semble, il est pas sorti de la famille royale parce que c'est, enfin, je sais pas si c'est correct de dire il est sorti de la famille royale, mais en tout cas, il a renoncé à son héritage, son rôle, ouais, ses titres, son rôle et du coup, ses obligations. Et ses obligations incluent, la discrétion et une forme de devoir de réserve. Et du coup, il sort ses mémoires qui, alors, en anglais, s'appellent Spare, ce qui veut littéralement dire en français, c'est la pièce de rechange, quoi. C'est,
et sachant que, Spare, pas si c'est remarqué, de rechange. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans l'épisode où le prince William y va à Eton,
oui,
il y a zéro moment où on voit Harry. Et elle, elle,
oui,
elle est
en
mode
très peu Harry dans
cette
saison.
Oh là là, ouin ouin, je suis seule, mon fils et tout. Je suis là, mais t'en as un deuxième, un fils, enfin genre.
Ouais, mais alors, je me suis un peu demandé à quel point c'est lié au truc de la vraie vie de, en fait, Harry, il s'est barré. Et du coup, peut-être qu'il y a un truc de, on va pas trop le mettre en scène alors que il est sorti de la famille, soit parce que du coup il est un peu blacklisté, soit parce que bah plus par respect pour lui, genre en fait. Cette famille, tellement flingué qu'il en est sorti. Et là, avec sa femme, Meghan Markle, ils sont déjà dans des sauces régulièrement et tout. Donc, et aussi, il est plus petit, donc il y a peut-être moins de choses à raconter là tout de suite sur lui. Ou est-ce que c'est un truc, effectivement, pour signifier, bah, Diana elle-même et Charles aussi, ils valorisent plus l'enfant qui va hériter du trône que l'autre. Et du coup, bah, Harry, on le voit pas parce que c'est une pièce de rechange. Et guess what? Il a fini par se barrer tellement il était mal. Je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi.
Hair and a spare, comme on demande à toutes les bonnes épouses de rois anglais.
Ah oui, tu nous donnes un héritier à remplaçant. Comme ça, si l'héritier il meurt, fais-nous deux fils, un héritier à remplaçant.
Ouais.
Et j'ai vu des photomontages de cette couverture avec Daemon Targaryen à la place, ce qui m'a fait énormément rire. Et avec Second Son à la place de Spare, puisqu'il a tout un
bien
truc
sûr
sur We Are the Second Sons.
Mais du coup, ça tu vois, là, je suis à ma limite de, tu vois, ce que je disais dans le premier épisode où on disait c'est quoi notre rapport à la famille royale et tout. En vrai, en soi, j'en bats les couilles. Une fois que j'ai regardé The Crown, je m'en fous. Et enfin, tu vois, genre là, j'ai.
Oui, pour le coup, en deux saisons de The Crown, t'es pas là à théma des documentaires,
oui, c'est ça,
sur Diana et tout.
Mais là,
j'ai ah non, mais on va suivre les nani nana. Non, mais pour les mémoires de.
Je suis en mode, waouh, j'ai envie de savoir.
On écoutera des podcasts sur les mémoires de Harry. On lira Point de vue pour avoir les bails des experts.
Et après, on vous fera un récap de une heure pour vous dire.
Alors,
tous les bails de la famille royale.
Les croustifondants petits bails.
Aïe, aïe, aïe.
Bah écoutez, je pense que c'est la fin de ce débrief,
oui,
de The Crown. C'est Est-ce super. Que tu veux dire aux gens où ils peuvent te voir dans littéralement 45 minutes en vrai à Paris?
Ouais,
parce que vous pouvez faire ça. Genre pas sur internet, en vrai à Paris, vous pouvez voir Loulou là. Elle va partir de chez moi et aller faire des trucs, c'est
chouette. Je vais aller travailler. Je vais aller travailler à la chronologique, à la machine du Moulin Rouge si jamais vous voulez, mais je crois que c'est complet comme toutes les chronologiques.
Car
après,
vous travaillez pour des
si vous arrivez à minuit pile, il y a des places sur place, tu vois, mais pas beaucoup, en vrai. Donc,
mais tentez-le quand même.
Peut-être vous avez votre billet, peut-être vous venez à une prochaine chronologie, il n'y a pas de souci, je suis là quasiment à chaque fois.
Peut-être vous allez suivre Louise sur l'intégralité d'Internet afin de ne pas rater
pas.
Les soirées où elle mixe, à savoir sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter.
Sur Twitter et sur YouTube, là, j'ai envie de me déterre
YouTube
à refaire des vidéos YouTube. J'ai une vidéo YouTube que j'ai tournée en septembre avec Camille Laurent, qui n'est toujours pas sortie.
Alors qu'on adore Camille Laurent,
alors qu'elle
et
est
nous
montée
ensemble, et que en septembre on s'est vu à Frames, donc je pense que je
c'était
vous ai vu filmer quelques plans de cette vidéo. Et moi-même j'ai hâte de la voir, alors que j'aurais pas beaucoup de
super,
vidéos.
Super, c'est sur la créativité et sur
bah oui,
comment Instagram nous nique la gueule aussi.
Et du coup, t'en fais une vidéo YouTube que tu sors pas sur YouTube.
Bien sûr.
Évidemment, c'est
non mais là j'ai
la vie de créatrice,
non,
de
mais franchement,
indépendante. Okay,
là j'ai tourné une intro et tout, je suis déter. Je vais la sortir bientôt. Mais voilà, Louise Petrouchka ou Petrouchka _, parce que des fois Louise
voilà
Petrouchka en entier ça passe pas, c'est chiant. Voilà.
Ça varie à droite à gauche, tout ça.
C'est ça qui est relou.
Merci Loulou d'être venue, merci de m'avoir proposé de faire ce
merci,
débrief de The Crown, parce que je pense que sinon j'aurais peut-être pas fait, je me serais pas dit que ça valait le coup. Et en vrai, ça valait grave
oui,
le coup. Je suis grave contente. Vous pouvez retrouver, pour rappel, les récaps rigolos de The Crown sur mon Patreon, patreon.com/amyamyhgl. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir papoté avec nous de cette saison, le chat. Merci pour les follow, merci pour les subs, merci Loulou qui met mon Patreon dans le chat. Y a aucune des personnes que je suis qui n'est en ligne actuellement, donc je vais raid personne, je vais vous envoyer chez personne. Je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit, à bientôt, prenez soin
bisous
de vous. Et merci d'avoir été là.
Ciao.
Bye.
Hold up.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.